Living.CityCom.net. Patience, my friend.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hi, this is Michael Stackpole and you're listening to Radio CityClan.
CityClan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net. CityClan.net vous présente Star Wars en direct.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
We're caught in a tractor beam that's pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Hey, bienvenue tout le monde à Star Wars Galaxy. C'est assez fort, hein, Chouk?
Comment?
Bienvenue à Star Wars Galaxy, tout le monde. Star Wars Galaxy, qu'est-ce que je dis là, moi?
Ben, je sais pas, c'est toi qui le dis, moi, je dis rien.
Bienvenue à Star Wars en direct numéro 26, qui va être consacré principalement à l'entrevue avec Steve Sansweet. On a le grand honneur de pouvoir l'interviewer
dans une heure.
Exactement. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre dans la salle de chat sur irc.afternet.org dans la salle d'IS7Clan. Il y a déjà quelques personnes. Vous pouvez venir nous rejoindre là. Et vous pourrez envoyer des questions à The Host, le premier en haut de la liste, pendant l'entrevue avec Sansweet, si vous voulez qu'on pose vos questions à la fin. Et puis, pour pas perdre de temps, étant donné que Shunka à faire à aller travailler dans sous peu. On va tout de suite faire la capsule Star Wars Galaxy au début de l'émission.
We just want to say for our English listeners that the Sansweet interview is still on. It's going to be coming a little bit later in the show. So stay tuned. And if you want to send us any questions by the IRC channel, it's irc.afternet. That's it. Danny?
Yeah.
And thank you. And you just send a question to me, the host. It's the first one on the top, so...
Yep. OK. Donc, on va tout de suite faire la petite intro Star Wars Galaxy France et on va commencer immédiatement avec la capsule Star Wars Galaxy.
I am C-3PO, Human Cyborg Relations, and this is my counterpart, R2-D2.
Cette capsule Star Wars Galaxy est une présentation du www.swg-fr.com.
Star Wars Galaxy France, le site fan officiel de la communauté francophone Star Wars Galaxy.
J'ai 6 questions dans le gars des
choses. Et on est de retour, on t'a entendu, Bastien, tes derniers mots.
Tu as 6 questions, tu n'en as que 6. Il n'a que 6 questions. Envoyez-lui des tonnes de questions histoire de faire flamber son petit ordinateur.
Exactement.
C'est pas une bonne idée, ça.
Ouais, hein, ça serait pas une bonne idée, mais c'est comme tu viens. Comme tu veux venir me piquer le mien.
Ouais. Ça dépend. Si tu me donnes les clés de ton appart, moi,
non.
Ça ne dérange pas, vous pouvez flooder mon ordi.
Donc, on va commencer la capsule Star Wars Galaxy. Moi, je vais juste commencer par. J'emmerde la NDA. Tu peux continuer.
Ah, bah pas moi. Bon, et bah, bonjour à tous. Donc, première chose, bien que ce qu'on ait dit pendant des mois, à savoir que. Dès le début du Beta 3, il n'y aurait plus de NDA. Et ben, c'est pas vrai! Il y a toujours du NDA. Donc, désolé, on peut toujours pas parler comme on veut du jeu. Sauf qu'on a des informations plus détaillées sur certaines professions. Donc, on peut plus en parler. On peut pas parler.
Ça va passer par le site officiel.
Ouais, c'est ça. Mais on peut pas dire, par exemple, telle profession donne accès à telle autre. Ok. Mais voilà. Donc, en théorie, il y a 5000 invitations qui auraient dû être envoyées, je pense, depuis mercredi jusqu'à hier. Mm-hmm. J'ai fait un tour rapide, comme ça, de personnes que je connais et tout. Sérieux, on n'a pas vu beaucoup de nouveaux bêta-testeurs. On n'en a pas entendu beaucoup parler. Genre, ouais, j'ai été pris en bêta 3. Peut-être, finalement...
Ils n'ont pas regardé leur courrier.
Non. 5000, mettons qu'ils aient juste... 20% de réponse, ça aurait dû quand même se voir là, mais peut-être finalement c'était pas jusqu'à et peut-être ils les ont pas encore envoyés, peut-être ça va partir. Donc vérifiez lundi. Moi je me souviens, j'ai reçu mon invitation à lundi, hein, donc c'est jouable. voilà, donc je peux toujours pas parler comme je veux du jeu pour cause de NDA. Il devrait y avoir 50 000 bêta-testeurs d'ici à début mai, mais s'ils commencent à prendre du retard sur les premiers, mettons d'ici à milieu mai.
Ouais.
Ah, officiellement, c'est d'ici à début mai, on aura 50 000 bêta-testeurs sur le jeu. Ce serait bien, ça permettrait de voir si ça permettrait...
Si ça fonctionne bien à plusieurs.
Si ça fonctionne bien, parce que là, tout seul, je commence quand même. Hein. Mais non, ça permettrait de vraiment... tester les stabilités, stresser les serveurs et autres pour voir si ça fonctionne tout le temps à plus que ce qu'on est maintenant là, au maximum de la capacité des serveurs par exemple. Ils ont dit que pour être pris bêta testeur, ce serait fait aléatoirement, donc par exemple,
ceux qui se sont inscrits,
c'est ça, ils ont autant de chance que tout le monde. Donc Bob, t'as toujours toutes tes chances. Il faut juste que t'aies un peu menti sur la config de ton ordinateur, parce que s'il voit vraiment, ça marche pas. Donc tu pourras commander tes CD, t'auras accès au site au forum de bêta, mais tu pourras pas faire tourner ton jeu.
Faut que tu fasses un petit tour chez Tribal, puis
ouais, c'est ça. Alors que tu graisses de
plusieurs centres de jeux réseau à Montréal.
Ah,
laissez-moi
ouais.
En nommer quelques-uns. On appelle ça Saint-Tribal.
Aurais-tu. Enfin, on va pas envenimer la chose.
Non.
La date de sortie officielle n'a toujours pas été donnée, par contre, donc elle devrait venir avec le début. Enfin. Avec la bêta 3, là, on devrait en savoir plus, mais il faut absolument.
Mais avec tous les rapports qu'ils nous ont fait, on...
Non, mais là, la sortie, ça va être en fonction du nombre de testeurs qui testent et en fonction de comment ça se passe. Mm-hmm. C'est possible hein, qu'elle soit repoussée, enfin qu'ils en aient une de prévue maintenant, mais qu'elle soit encore repoussée si ça se passe mal. Mm-hmm. Ce que j'espère pas, ok, pour tout le monde, là, je l'espère pas. Parce que moi, j'ai de la chance, je peux jouer au jeu, mais on n'est pas, hein. Vous en savez quelque chose, ouais. Là, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. Donc pour nous faire patienter, enfin pour vous faire patienter, ils sortent les arbres de compétences au compte-goutte.
Ouais.
Et ils ont dit que ce serait pas tous les vendredis, mais ça fait quand même 4 vendredis, je pense, ou 3 vendredis de suite qu'ils nous en sortent un. Donc on avait eu l'arbre de compétences des scouts, deux fois, parce qu'il avait été modifié. Après, ils nous ont sorti l'arbre de compétences des dresseurs, qui n'est pas une profession de base, hein. c'est le seul arbre qui nous en sortit qui n'est pas une profession de base. C'est une profession d'élite qui requiert les niveaux de spécialiste dans deux disciplines de la profession d'éclaireur. Donc c'est peut-être pour ça, c'est pour montrer comment ça interagit.
Ils font comme montrer l'évolution d'un personnage.
Ouais,
avec
bah
les
là,
arbres,
ouais,
pratiquement.
C'est ça. la profession de scout est une des professions les plus courues. Qui est...
Bah c'est explorer.
Bah, c'est ça. Genre, il y en a beaucoup. Ben il y en a moins en bêta test qu'au début. Il y en a beaucoup quand même. Et la profession de dresseur de créatures, elle requiert les compétences en exploration et en chasse. Donc il faut être spécialiste de ces deux compétences-là au niveau de scout pour ouvrir la compétence de dresseur.
Okay.
Après, ils nous ont ouvert montré l'arbre des médics. Donc celui-là, je le connais très, très, très bien.
Ok. Ça nous donne un indice de qu'est-ce que tu fais sur...
Je vais certainement jouer Medic d'ailleurs après avoir vu comment il fonctionne. Je le connais vraiment très bien.
Battle Medic sur le terrain, non?
Non, moi non.
Médecin,
j'ai décidé que.
Clinique privée, puis.
Bah, pas forcément privée, là, mais j'ai décidé que je jouerais Medic. Je jouerais social à fond, pas forcément médecin. Ça veut pas dire que j'irai pas explorer, là, que je changerai pas régulièrement de place où je professe, mais. Mais c'est Medic à fond. Si je veux jouer le combat, j'irai jouer sur Planet Side. On va mettre ça au clair. Là. Mais c'est parce que je trouve ça cool aussi les professions sociales dans des RPG.
C'est fait pour.
Bah surtout celui-là. J'ai testé d'autres professions sociales là. Il y en a des très très bonnes. ça va être dur de jouer juste Medic si tu vois ce que je veux dire. En profession sociale. Hein, bah. J'ai testé pas mal toutes les professions de base là. Enfin je les ai toutes testées de base, j'en ai testé quelques-unes au-dessus, mais j'ai testé toutes celles de base. Et ça nous amène à la dernière profession dont ils ont révélé l'arbre, c'est les tireurs d'élite, les marksmen. Et l'arbre vient d'être modifié au complet, donc s'il l'avait eu sorti avant, il serait complètement modifié suite à ce que les bêta-testeurs ont dit sur cette profession là. Donc je l'ai pas retesté depuis qu'il a été modifié. Je sais pas comment ce que ça a vraiment changé, mais
c'est dans tes branches le sniping.
En théorie oui, mais tu vois là par
c'est
exemple.
C'est différent là-dedans là.
Je crois que j'aime ça quand c'est twitchy là, comme on dit avec la souris.
C'est pointilleux, ouais.
Ouais, c'est. Tu sais, là, c'est sérieux. Ça veut pas dire que j'aime pas que le combat est mal foutu dans Star Wars Galaxy. C'est pas le cas, ok. Le combat est bien foutu, mais sauf que c'est. Moi, c'est pas mon. Ce sera pas mon truc dans le jeu finalement. Je pensais au début, hein, c'était marrant, hein, j'étais sûr que j'allais faire une profession de combat, bah non. Ça, c'est une fois qu'ils ont eu enlevé la politique, parce que c'était la politique qui me plaisait plus.
Ouais, c'est ça.
Enfin, qu'il l'ait déplacé, hein, pas enlevé complètement. Ouais. Sinon, les bêta-testeurs ont testé Corellia. Ok, donc il y a eu un bêta-update sur Corellia. Évidemment, j'ai vu des commentaires. Ouais, ils ont pris juste des fanboys. Et pour une fois, eh ben, j'étais dans les commentaires, donc je me suis senti un peu fanboy. Et honnêtement, je vais vous dire ce que j'ai dit dans le commentaire, dans mon commentaire. Et ce que vous avez pu lire, c'est cette planète est vraiment super belle.
Et
moi, je suis pas un gros fan de Naboo, donc je trouvais Naboo belle, ok, mais Corellia, c'est autre chose là, c'est une planète qu'on n'avait jamais vue, très peu vue. On l'a vue dans deux jeux, je crois. Je l'avais survolé dans Rogue Leader ou Rogue Squadron, je me souviens plus lequel.
Est-ce que ça ressemble à qu'est-ce qu'il y avait dans ces jeux-là?
Ouais, et ça ressemble exactement à quand tu peux lire dans l'univers étendu, ça ressemble à ça.
Okay.
J'ai visité récemment les marais d'Agrilat, c'est sur Corellia. Hein. Je suis passé dans des marais sur Corellia, ça m'a un peu. Il me semble que c'est Agrilat, hein, sur Corellia. Tu te souviens, toi?
Ouf, non. C'est assez loin.
Ouais, je me souviens jamais si c'est sur Corellia ou non. En tout cas, c'est sérieux. La flore change. Les villes, c'est plus Tatooine. C'est pas Naboo non plus. C'est je sais pas, un mini Coruscant, peut-être.
Okay.
Mais au niveau de la taille des bâtiments, c'est sérieux.
Sauf que les grands bâtiments, tu peux pas rentrer à l'intérieur plus que 3 étages, probablement.
Non, ça change pas. C'est un des trucs du jeu. Sauf que visuellement parlant, ça change de Tatooine, qui est quand même une planète assez enfin dont les villes sont assez
assez nivelées
vers le bas, ou de Naboo, où c'est des villes assez enjolivées. Ok, il y a beaucoup sur Naboo, y a, comme on peut voir dans les films, il y a des statues, c'est beau, c'est.
Est-ce qu'il y a la grande chute?
Ouais. Oh, ah, oui. C'est attention, c'est.
C'est NDE, non?
Non, c'est... bah.
C'est Oups.
Non, mais c'est pas du NDA, puisque il se base quand même
ouais, sur
ce qui a été fait.
Existe, ouais. Donc tu... C'est même plus si supposé
je...
que.
Même si je te l'avais pas dit, tu te serais dit putain, il y a pas la chute. Si je t'avais dit ah non, il y a pas la chute, t'aurais dit oh, c'est quoi cette merde. Non mais tu vois, faut pas déconner quand même. C'est comme si je te disais à Mos Eisley par exemple, il y a pas la cantina. Tu t'imagines la gueule que tu ferais.
Mon Dieu.
Eh ben c'est vrai.
Non,
c'est pas vrai. Il y a la cantine.
Où je vais aller boire, moi.
Ouais.
Il va y avoir suffisamment de bars qui vont ouvrir, j'ai l'impression.
Bob, qu'est-ce que tu vas faire dans le jeu? Pilier de bar. Ouais, sinon Holocron nous avait fait passer des petits messages comme quoi les guerres de PA, donc de Guild Player Association, ça rapporte pas de points de faction, sauf si les deux guildes qui se battent sont une alliance et une empire.
Okay.
Mais si tu te bats, s'il y a plus de...
Enfin, deux du même camp qui essaient de prendre un contrôle quelconque,
s'il y en a deux, ça marche pas. Si c'est une guilde de, je sais pas, d'artisans, par exemple, qui essayent de se battre contre une guilde de rebelles, et ils prennent pas de points de faction là-dedans. Donc c'est vraiment... que si vous combattez un membre de la faction adverse, donc à savoir rebelle ou empire, les deux factions. Ils ont inclus récemment la faculté, la capacité, pardon, de régénération des 30 Doshan.
Ok, ouais, 30 quand
Doshan.
Ils passent en bras. Puis
ouais, bah là, c'est, bah, ils perdent pas leurs bras, mais genre, s'ils sont blessés, ils vont récupérer plus vite que les autres races. Les Gungan, pour l'instant, ignorent les joueurs. On se demande pourquoi. Mais il y en a quand même quelques-uns qui peuvent proposer des missions. Et ils ont bien des gueules de Gungan, comme il faut.
Ils parlent-tu de la même façon? Probablement ça doit ressembler quand même.
Quand tu les pousses en bas d'un mur, est-ce qu'ils font...
Je sais pas, j'ai pas vérifié. S'ils parlaient, ce qu'ils te disaient, ils te le disaient ou non. Faudrait que je vérifie.
Tu te dis bêta testeur, gros.
Ouais, mais je l'ai précisé, hein, j'aime pas Naboo. Donc les Gungan sont quand même pas mal sur Naboo. Ouais, mais enfin, je pourrais continuer là-dessus, mais je passerai en NDA, donc je vais pas. Ils ont. Ouais, on pourra plus obtenir d'armure de Stormtrooper. On pourra obtenir des armures de Stormtrooper, pardon, qu'en dépensant des points de la faction impériale. Donc un rebelle pourra pas. S'il a pas. Pourra pas porter une armure.
Donc on peut porter des armures de Stormtrooper,
ouais,
même si.
Ça avait été
pensais que c'était réservé aux personnages non joueurs que tu dirigeais.
Ouais, mais
exemple.
En fait, c'est. Tu peux jouer. Enfin, tu peux pas jouer un Stormtrooper, mais tu peux porter son armure.
Tu peux porter une armure, ok.
Bah, si tu tues un NPC Storm, ou si t'en trouves un qui est mort, et que tu lootes son corps, et qu'il a des pièces, ou tu lootes un Jawa qui
traîne un casque par hasard.
Enfin, tu vois comment tu peux récupérer les machins. Il y a des cartes planétaires dans le jeu, ok, donc elles vont contenir les endroits intéressants à visiter. Donc t'auras pas besoin d'avoir ton petit papier, ton petit crayon, puis de mettre telle coordonnée, j'ai vu ça, ce sera
des star maps, ouais, Ben Kenobi's house.
Ouais, mais tu rigoles, mais il y a des jeux comme EverQuest ou Daok, je pense, il y avait des gens qui étaient spécialisés en cartes, qui fournissaient des cartes sur Internet.
Tu disais ça, ils faisaient comme des cartes super précises.
Ouais. Donc, voilà. Les fusiliers viennent d'obtenir la capacité de donner le coup de grâce à distance.
Ah ouais.
Ça s'appelle Dive Bro parce qu'ils avaient essayé coupe de grâce en anglais, mais finalement personne ne comprenait ce que ça voulait. Ça s'appelle Dive Bro.
Dead Blow.
Ou Dead Blow, ouais. Et jusqu'à maintenant, ça ne devait pas être le cas.
Non, c'est ça. Ça a dû être suite aux commentaires de ceux qui ont testé les snipers.
Genre les marksmen là, qui en avaient marre de s'approcher et puis de faire « Out !» coup de coude. voilà. Ouais. Et la grande majorité des professions ne requiert pas le rang de spécialiste dans une discipline. Non, pardon, ne requiert que le rang de spécialiste dans une des disciplines pour débloquer une profession avancée ou d'élite. Donc par exemple, pour revenir au scout, t'as pas besoin d'être master scout pour débloquer la profession de dresseur. T'as juste besoin d'être spécialiste dans deux disciplines de la profession scout.
Ok.
Ça
aide, ouais, c'est ça.
ça c'est moi. Et tous les artistes ne pourront pas blesser les joueurs qui sont en face d'eux, même s'ils dansent très très mal. Ça se demandait s'il n'avait pas prévu des conneries pour le 1er avril, le holo, et qu'il les a sorti. Mais voilà. Hier, on nous a demandé comment on voulait que le système de dégradation des objets soit géré dans le jeu. Donc pour l'instant, c'est, par exemple, même si t'es pas connecté, ton objet se dégrade quand même, ok? Ça veut dire que... Moi je trouve ça normal, même si je serais aussi favorable à ce qu'il se dégrade énormément moins vite quand t'es offline que quand tu t'en sers, par exemple. Je trouverais normal
ça
que quand
tu t'en sers. Ouais.
C'est aussi normal qu'ils aient du mal à faire dégrader tous les objets, parce que si par exemple tu craftes un tapis, comment faire en sorte qu'il se dégrade et comment montrer qu'il se dégrade aux joueurs, là, ça me paraît un peu dur à faire. Donc.
Ok.
Mais c'est une question assez intéressante à laquelle j'avais pas vraiment réfléchi, donc depuis que j'ai vu la question, je suis en train d'y réfléchir. Je pense que je vais mettre mes commentaires bientôt comme il faut.
Super Chunk et ses commentaires canons.
Ouais, c'est ça, canon ou pas d'ailleurs. Ça dépend des commentaires. Récemment aussi on nous a parlé d'un truc qui m'énerve énormément, à savoir que c'était Shug, je pense, qui avait dit que le Shiriwook, donc les langages, ne seraient pas forcément intégrés au jeu. Alors là, s'ils les intègrent pas au jeu, ils me perdent comme joueur, c'est aussi clair que ça, je ne jouerai pas. Je veux jouer à Star Wars, moi je veux pas jouer à... Je suis dans une galaxie ressemblant à Star Wars, mais avec des règles différentes.
Mais au lieu des Wookiees, c'est des Bigfoot, là, des Sasquatch.
Ouais, mais je suis d'accord pour qu'on aide les joueurs, qu'il y ait certaines choses qui aident les joueurs. Je suis pas d'accord si ça s'éloigne vraiment trop de la continuité. Je peux comprendre que on puisse permettre aux Wookiees de jouer... impériaux, si c'est très dur à atteindre,
ouais,
c'est ça, ou aux femmes de jouer impériaux, aux personnages féminins de jouer des impériaux, si c'est plus dur à atteindre. Je peux comprendre tout ça, je peux comprendre qu'ils aient besoin d'un système de résurrection traduit par le clonage, je peux comprendre ce genre de besoin pour le jeu. Maintenant, quand tu me dis ouais, mais les Wookiees,
ils
parleront le basique, tu viens de me perdre comme joueur. Donc, ça a été démenti, enfin. Holo a dit non, pour l'instant c'est pas officiel, le langage est toujours intégré, sera toujours intégré au jeu lors du lancement, mais si jamais il décidait finalement de pas l'intégrer, je ne jouerai pas à Galaxy, que ce soit bien clair pour tout le monde, je jouerai pas, c'est aussi simple que ça. Sinon, autant aller jouer à Star Trek, et je n'aime pas Star Trek.
Toi, aller jouer à PlanetSide.
Oui, je joue déjà à PlanetSide, de toute façon. je suis bêta testeur avide aussi, je pense.
Avide
de nouveaux bêta tests. Je joue de bêta test Eve aussi, mais ça me plaît moins. Et dans la dernière newsletter officielle, ils nous ont montré un super champignon géant. Ils nous ont pas précisé s'il était hallucinogène ou pas, si on pouvait faire une omelette ou pas. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il était gros, parce qu'ils ont montré un humain à côté. Il est tout petit, alors j'imagine pas le l'Ewok, parce que c'est un champignon d'Andorre, ok. Je sais pas si c'est un champignon qui Andorre, par contre.
Il va y avoir un autre culte autour d'un objet.
Je pense qu'on va avoir un nouveau.
Un autre.
Il est gros comme champignon, là. Il est vraiment gros, d'après ce qu'il montre sur le...
Le croquis, là.
Ouais, sur le concept art. Ouais. Il est vraiment gros. Il me plaît. Je sais pas si, par exemple, est-ce que les chefs cuisiniers du jeu vont pouvoir aller sur Andorre le récupérer pour faire des méga omelettes. Je sais pas ça, mais... Non, mais ce serait marrant aussi qu'ils intègrent ce genre de choses, genre que par
exemple. C'est une denrée
Ouais,
exquise ou peu importe comme le caviar, là.
Ouais, c'est ça.
Faut que tu ailles le chercher sur Andorre. Puis...
Ou que tu te le fasses envoyer ou quelqu'un à Scoot, par exemple, ouais, là, il peut le chercher. Ça pourrait être marrant aussi, ça pourrait être sympa. Je sais pas comment. Mais en tout cas, il est gros, hein. C'est un arbre, le machin. Ouais, tu l'as pas vu?
Non.
Ah, il est vraiment immense, quoi. C'est... Je pense l'humain, il est à taille 1m80, puis je pense le champignon, il fait
deux fois
à peu près, ouais.
C'est le genre d'information qu'on retrouve.
C'est le genre d'information débile dont t'as pas besoin pour jouer, mais que je trouve sympa.
Mais la fameuse photo, je veux dire, on la retrouve.
Ouais, tu peux la voir sur notre site, ouais. Sur StarWarsGalaxy-fr.com, c'est le genre d'information qu'on diffuse tout le temps et que si Clan reprend, en théorie,
ouais.
En théorie, il reprend toujours. Bien.
Tout dépendant de Jérôme.
Ouais, c'est ça. Jérôme, vous avez un max que je n'ai pas vu. Ouais. Donc j'espère qu'il y aura d'autres francophones, français, québécois, belges, suisses, peu importe, qui vont avoir des comptes de bêta-testeurs.
Des nouveaux...
Je tiens à rappeler que le bêta-test étant toujours sous NDA, il faut, pour être pris, avoir plus de 18 ans.
Okay.
Donc, si vous n'avez pas menti sur votre date de naissance, c'est mort pour vous.
Il aurait dû faire 18 or older directement au départ.
Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est sous NDA, donc pour signer le NDA, faut avoir plus de 18 ans.
Sinon, les papas et mamans devront signer pas.
Non, tu peux pas. Tu n'as pas le droit si tu n'as pas 18 ans, mais c'est quand même un truc informatique. Ils viennent pas chez toi pour vérifier si t'as vraiment 18 ans, sinon ils se seraient aperçus que j'en ai 15 mentalement.
Tu vois les avocats de Lucasfilm mettre les lunettes fumées arriver à ta porte.
Ça frappe.
Toc, toc, toc.
Et là, t'as deux Jedi qui arrivent. Tu as 18 ans. Oui, monsieur. Non, ça se passe pas comme ça. Hein. C'est pas vrai, ça. Si on vous a raconté qu'il y avait des Jedi qui venaient à votre porte, c'est un mensonge. Ça ne se passe pas comme ça.
À moins qu'il s'appelle Sébastien.
Ouais, c'est ça. Seb cherche toujours où j'habite.
Non.
Parce que... Seb veut mon compte de bêta tester, je sais pas pourquoi. Tu veux lequel, Planet Side et Star Wars Galaxy ou juste Star Wars Galaxy?
Non, je te débarrasse de Star Wars Galaxy si t'as l'air de bien t'aimer avec.
Je te débarrasse, j'ai jamais dit que je ne jouais plus à Star Wars Galaxy, je continue à tester malgré. Je teste d'autres jeux.
Bon.
Qu'est-ce que tu crois? Non, déjà parce que Corellia étant assez récente, j'ai pas eu le temps de la parcourir en long, en large et en travers.
Puis à date, les bêta-testeurs ont eu droit d'aller sur quelle planète? Officiellement, qu'est-ce qui a été divulgué?
Ben, officiellement, c'est
Tatooine, puis
Tatooine, Naboo et Corellia.
Ok.
Et s'il y en a des officieusement, je suis toujours sous NDA.
Ouais, c'est pour ça que je disais ça officiellement. Ouais,
je sais, c'était bien tenté, là, d'essayer de me griller comme ça, discret, genre, il a oublié, il se souvient plus. Non, ça marche pas.
Non, ils t'ont mis un petit implant dans la tête aussi.
Juste là. L'autre côté, j'ai un tag, genre un
Planet Side, un code barre.
C'est ça, Planet Side. J'ai mon DNA, mon ADN avec NDA, DNA et ADN, je mélangeais les trois. J'ai mon ADN qui est cloné sur...
pour qu'il puisse tuer l'original en coquille à petit bulk.
Je suis automatiquement renvoyé dans des cellules sparties pour être cloné, tu sais. Et voilà. C'était tout pour Star Wars Galaxy. Je sais pas, je vois qu'il y a un peu de monde là sur le...
Oui, s'il y en a qui ont des questions sur le chat, gênez-vous pas pour les envoyer à Darhouse.
Si vous avez 2-3 questions là, je vais pas tarder à partir.
C'est de lui qui parlait, le champignon là.
Ah ouais, c'est ce champignon là, tu vois, il est un peu gros quand même.
Oui, un peu.
Ça fait de l'omelette.
Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Shunkaha?
Si j'ai pas de questions, faut que j'aille travailler et non pas tester pour une fois. Alors, ça me
faut quand même que
faut quand même que je paye mon compte internet. Donc,
alors,
voilà.
Pour ceux qui sont avec nous sur le chat, je vous envoie le lien vers les photos de du fameux champignon qu'on parlait entre autres. Et puis il y a Hervé qui nous fait Hervé de Star Wars Galaxies Affaires aussi, qui voulait nous faire part du fait qu'il y a des nouveaux screenshots sur SWG.
Ça doit être très récent.
Oui, c'est de ce matin. Ça va écraser notre nouvelle. Okay. C'est des screenshots de IGN, si je ne m'abuse.
Tu les as, hein, que je regarde que...
C'est donc.
Ouais. C'est parce que je connais les screens, là, mais pas forcément. SWG.fr.
C'est mon putain de clavier.
Non, mais accuse pas ton clavier, c'est pas de ça.
Non, non.
Ah ouais, c'est vrai. Il vient de mettre un coup. Putain, il a. Regarde, pourquoi tu descends
respecte
pas.
Respecte ton ordinateur un peu.
Pourquoi tu descends pas comme ça et tu fais. Voilà, une nouvelle fonction.
Non.
Comment ça, non? Tu les as regardés au moins, les screens, là?
Oui, je les ai regardés.
Bah, et alors, ça a l'air de quoi?
Bah, ça a l'air du sable et du bac, et voilà.
En c'est sur Tatooine?
Ouais.
Ah, ouais, dis donc, il y a un Banta, un Cryet qui a l'air mort ou en train de dormir, des Womp Rat, le troisième, c'est des Womp Rat.
Hein?
Ouais.
Génial.
Ça, après, je les commente, ok, puisque c'est officiel, enfin, mm-hmm. c'est divulgué, je peux te dire ce que c'est. Banta avec des Tusken Riders. Ça, c'est des Warts.
Des Warts, ouais, ouais. Comme sur le côté du palais de Jabba dans le film, ouais.
C'est une saloperie. Crate, Romprat, celui-là, par contre.
C'est un Crate qui
ah, non,
est debout,
ça, c'est
non
pas un Crate, c'est un Dewback, je pense.
Ok.
Vite vu comme ça, mm-hmm. j'ai l'impression du. Je sens le Dewback.
Okay.
Et le dernier, on aurait dit des danseurs, mais j'ai pas compris. Le dernier. C'est des Rancor, mais on dirait qu'ils sont en train de danser. Il y en a un, il a la papate en l'air. On dirait qu'ils nous font une valse.
Ils se font tirer dessus par des Stormtroopers.
Ouais, c'est ça.
As-tu déjà apparu sur un screenshot?
Ouais, c'est des Dewback. Hein? Non, tu veux dire à partir les miens? Non,
non.
Et le joueur qui s'appelait Ivid Akobe a fini sa carrière de joueur.
Non, parce que c'est des screens officiels. Oh, ils ont masqué le. Ils ont masqué le radar.
Le radar, ouais. Ok. Ouais.
Alors, ça, c'est ce qu'on peut voir là si vous regardez le screen des Dewback. On voit les Dewback, on s'en fout là. Vous regardez en bas là, à l'extrême gauche, c'est le radar que vous aurez, sauf que là il a été masqué par le logo
de IGN,
du site, je pense,
ouais.
D'IGN. Au milieu, c'est la fenêtre de chat. Sur la droite, c'est les différentes options que vous aurez dans le jeu, accessibles dans le jeu.
Okay.
Et puis en haut, remonte en haut, au-dessus des Dewback, en haut. À l'extrême gauche, vous avez le HAM, donc c'est la santé, l'action et le mental.
Mm-hmm.
Et après, c'est vos touches F1 à F12, je pense.
Mm-hmm.
F1 à F12, qui vous permettent de mettre des choses là-dedans, puis de les accéder rapidement quand vous jouez.
Des touches d'accès rapide qu'on appelle.
Ouais, c'est ça, des touches d'accès rapide, des touches de fonction, voilà.
Excellent.
Voilà. Donc moi je vais foncer bosser parce que en évitant de me couper un doigt parce que c'est plus dur pour tester. J'ai besoin de mes 10 doigts. Et je vous laisse, j'espère que vous poserez ma superbe question.
Oh, oui, je l'ai noté.
Mes superbes questions à Steve, il y en a une, elle est vraiment excellente, je suis fier de moi.
Non, on ne va pas lui demander.
Ouais. Non, je vais pas parler de ton pénis, non.
Non.
Non, c'est bon.
Mais c'est quoi cette discussion?
Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je vous écouterai en reprise. Désolé, j'ai pas accès à Internet au travail. Je suis pas devant un ordinateur quand je travaille. Et amusez-vous bien. Et si jamais il y en a qui écoutent cette émission en reprise ou... Vas-y Bob, essaye avec le H, ça marche toujours pas. Si jamais il y en a qui écoutent cette émission en reprise et qui ont des questions, vous pouvez me contacter ou passer sur nos forums, on vous répond aux questions. On est dans l'ensemble assez gentil, on évite de vous mordre.
Mais merci beaucoup Shunka.
Mais de rien.
Et puis tu passeras... pour mon coloc pour d'autres bêta tests peut-être dans le futur.
Peut-être dans le futur. Histoire de dégoûter tout le monde. Allez, bonne journée.
Salut. Bon. Eh bien.
Bon, attention.
Il reste une vingtaine de minutes avant l'entrevue.
Ah,
ouais. Ben, on avait prévu de parler un petit peu de l'expérience de Sébastien à la Star Wars Celebration. On va avoir quelques questions par rapport à ça pour Steve Sansweet. Et puis, vu qu'on n'a jamais fait d'émission là-dessus, on va prendre le 20 minutes qui nous reste pour parler de ça.
La Star Wars Celebration. C'était le du 3 au 5 mai 2000.
Juste avant le film, là.
2002. 2002. Oui. Et, ça se passait à Indianapolis.
Évidemment.
Au centre
de congrès.
Au centre de congrès, au Convention Center, RCA Dome. C'est là qu'ils jouent leur partie de football, dans le fond. Je sais plus trop quelle équipe d'Indianapolis.
Les Colts.
Les Colts.
Ouais.
Des étalons. Bon, alors c'est l'équipe de
Shunka.
T'as un étalon, toi?
Non.
C'est là que t'aurais dû répondre oui. Enfin, bref.
Non, mais je veux pas me monter après, je vais avoir trop de trucs.
Bon.
Et on continue.
À la prochaine. Alors, c'est ça. Alors, c'était au RCA Dome Convention Center d'Indianapolis.
C'était relié pour la convention.
Le RCA Dome et le Convention Center, c'est en fait un seul et même building. C'est une même bâtisse qui sont ensemble. Cette bâtisse-là est reliée à... un petit instant, je pense que c'est 3-4 hôtels tout autour, c'est assez...
Oui, c'est comme des passages qui relient ça.
C'est ce qu'on appelle des fameux Skywalk. Fait que pour une fin de semaine...
Des Skywalker.
Tous les fans de Star Wars qui passaient par là sont devenus des Skywalker. Et voilà. Alors on a le Hyatt, le Westin, le Marriott. Alors on a 3 hôtels minimum qui sont reliés avec des fameux Skywalk, les petits ponts qui nous permettent de rentrer dans le centre de convention sans même sortir dehors, ce qui est quand même...
C'est bon pour ceux qui se costument, etc. Là.
Oui, exactement. Mais par contre...
C'est du mauvais temps.
Ouais, c'est ça. Mais par contre, on a été gâtés. On a eu juste du bon temps pour cette fin de semaine-là. Ça a été vraiment, vraiment super. Puis, les autorités de la convention ont fait quelque chose de très intelligent. Ils barraient l'accès à ces fameux Skywalk-là pour l'entrée de la convention.
Okay.
Parce que pour vous donner une idée, je me suis levé à 5h du matin à tous les jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi, j'étais à 10 pieds de la porte. Le samedi matin, j'étais à 20 pieds de la porte. Et j'étais à 50 pieds le dimanche matin.
À 5h le matin.
En se levant à 5h le matin. Puis je m'étais couché à 2h. C'est vraiment une expérience unique à vivre. C'est dur de décrire comment est-ce que c'est quand on est là-bas, comme je l'appelle souvent. Il y a le fameux con mode, la petite switch dans le cerveau qui se tourne à on. C'est le fait d'être...
Tu sais, tu peux plus dormir. Tu switches ta switch de sommeil à off et puis tu...
Quelque chose comme ça, mais c'est pas au point où est-ce que tu peux plus dormir parce que le corps humain a besoin de sommeil pour survivre dans un lieu où il y a 27 000 personnes pas loin en même temps. C'est quand même assez effrayant. Là. Quand on parle qu'ils ont fait venir les pompiers pour presque éclairer la place là, parce qu'il y avait trop de monde, on avait de la difficulté à passer. Le Wizard, il avait pas prévu, je pense, autant de fans que ça. La première, il y en avait eu pas loin de 13 000, un petit peu plus que 10 000. Puis là, il y a 27 000 fans qui sont présents.
Ça a doublé, ouais. Ça risque d'être trois fois pour le prochain.
Fait que là, on essaye de se poser la question, Star Wars Celebration 3, ça va être quoi? 54 000 fans? Ou juste un 40 000 peut-être, là? On se pose des questions.
L'emplacement va avoir beaucoup d'importance
pour la célébration en tant que telle. Mais moi personnellement, Indianapolis, j'ai trouvé que c'était un bon endroit, comme ils ont dit, ils l'ont choisi parce que c'était centralisé. C'est vrai que c'est bien, très bien placé.
Parce que tu peux y aller en auto,
c'est à même pas une journée de route d'ici. Ok, c'est à une journée de route.
24 heures sans arrêt. Là.
17.
17, ok.
Fait que t'as le temps de faire des pauses de souper, puis tout, t'arrives là-bas pour te coucher. Okay. Ça, c'est. Dormir 2 heures, te lever, faire la file. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire aussi pour la Star Wars Celebration. Si vous n'êtes pas patient, c'est pas la place à aller.
Si vous voulez des signatures ou des trucs du genre.
C'est vraiment pas la place à aller. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup de vedettes qui sont là, qui sont prêtes à signer, qui font signer, on achète des coupons, je me souviens plus exactement du prix, je pense que c'était $10 US le coupon, puis après ça on allait au table, on faisait signer nos, euh, nos livrets, tout ça, qu'est-ce qu'on voulait faire signer. Mais c'est quelque chose qui est très, très dur. C'est extrêmement long. Faut être patient parce que, juste pour vous donner une idée, moi je me suis levé de très bonne heure. J'étais quand même assez, assez proche des portes pour rentrer le matin. Mais c'est tout le temps de l'attente. C'est constamment de l'attente en file dans cette, pour
oui,
les événements.
Tu m'avais dit que pour Carrie Fisher, la file d'attente était épouvantable.
Pour Carrie Fisher, pour vous donner une idée, là.
C'était la première convention qu'elle revenait.
Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de convention. Puis c'était elle en a refait d'ailleurs depuis celle-là. J'espère qu'on va la voir plus souvent maintenant. Mm-hmm. Mais c'est ça. Pour vous donner une idée, le RC Dome, comme je vous disais, c'est un terrain de football qui est à l'intérieur d'une bâtisse. La bâtisse qui est entourée par des routes et compagnie. Mm-hmm. La file d'attente pour les membres du fan club officiel était de 7 fois et demi la longueur d'un terrain de football. Ça, c'est une personne que j'ai entendue qui était au bout de la file complètement, mm-hmm. qui a réussi à rentrer dans l'après-midi, qui m'a dit « Oh, je voyais le toit de loin. » Puis pour voir le dôme du RCA Dome, il faut être assez loin, là, c'est moi vous le dire.
Mais ceux qui sont membres du Insider, ils ont priorité pour rentrer ou...
C'est ça. Il y avait deux files, il y avait deux portes d'entrée. Okay. Il y avait la porte d'entrée pour ceux qui achetaient leur passe, ceux qui étaient des
donc,
des
tu t'abonnes, réguliers. Donc, ceux qui sont pas abonnés, tu t'abonnes juste avant.
Tu t'abonnes juste avant pour recevoir ta passe du Insider, c'était la petite...
Pour attendre moins longtemps.
C'est ça, le lacet qui vous met autour du cou avec la passe de la célébration, qui coûtait 75$ pour 3 jours, US. Mm-hmm. Ça fait quoi, 125 à peu près, canadien?
Ouais, un petit peu moins.
Ça valait extrêmement la peine. Sincèrement, là, oui, je vous le dis, faut être patient. Oui, c'est vrai que on attend beaucoup en ligne, mais quand on attend en ligne, on rencontre du monde merveilleux, autant en avant qu'en arrière de nous autres. Il n'y a pas un matin, à 5h du matin, quand je sortais, que je me ramassais tout seul, puis que je parlais pas avec du monde autour de moi. On a eu du fun, on a trippé toute la fin de semaine. C'était vraiment débile. Justement, il y a eu d'ailleurs un petit party le vendredi soir qui a été organisé par un de nos nouveaux sponsors. Et que Steve Sansweet était là, d'ailleurs, que j'ai rencontré ceux qui nous ont inspiré l'idée de la radio. Mm-hmm. Et c'était vraiment merveilleux. Je veux dire, le Fan Force Party, c'était un des hauts moments et des forts moments de la, mm-hmm. de la célébration. Laisse-moi vous dire que quand vous voyez un gars déguisé en Chewbacca, que c'est un déguisement qui est sur Richard, qui fait son 7 pieds 3 de haut, ça impressionne. Il avait chaud, le pauvre gars. Il y a Arcos sur le chat qui me demande si le Lucasfilm Magazine, ça marchait aussi.
C'est une convention en France, probablement, mais aux États-Unis, c'était probablement pas.
D'après moi, pour le... Non, parce que c'est quand... Membre du Lucasfilm Magazine, c'est l'édition française de Star Wars Insiders. Donc, normalement, tu es membre du fan club officiel, donc ça devrait fonctionner pour ce qui est d'obtenir la lanière grise du...
Faire la file d'attente la moins longue.
C'est ça. 7 fois et demi
le temps. Dans le fond, c'est ça le but, là.
Ouais, c'est ça. Mais je vous dirais que les deux files, c'était pas mal la même chose quand mm-hmm. même. Là. C'était j'ai été vraiment surpris de voir à quel point il y avait du monde. C'était vraiment effrayant. Quand on est rendu qu'on a de la misère à se déplacer pour aller aux toilettes, c'est vraiment fou, là. Mais les gars de Wizard of the Coast, parce que c'est eux qui organisaient ça, c'était une de leurs premières conventions qu'ils faisaient là. Ça leur a donné énormément d'expérience.
Pour la prochaine.
Je veux dire, les gars de la sécurité sur le site, ils s'attendaient pas à avoir 27 000 personnes cette fin de semaine-là. On remercie énormément encore de nos jours les Five O First qui étaient là pour tenir la sécurité. Sans eux, ça aurait été complètement débile, la folie totale.
You don't need to see my identification. Yes, I do.
Ça, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse au prochain show parce qu'il faut que j'essaie de remettre la main là-dessus. Il y en a beaucoup qui se sont fait dire ça, justement. On va essayer de mettre la main sur un petit extrait de...
Okay.
De Stormtrooper Bob. Mais, bref, c'est ça, il y avait 27 000 personnes. Puis, la façon qu'ils avaient coordonné ça, c'est quand vous vouliez aller à un événement, vous faisiez la file, pour ce qui est des gros événements dans la main ballroom, là, la salle de bal principale.
Les conférences.
C'est ça, les conférences qui étaient tenues, entre autres, par Anthony Daniels. Fallait faire la file, fallait prendre un billet. Fallait refaire la file pour cette conférence-là. Si on voulait aller retourner dans cette salle-là, après, fallait refaire la file, tout ça, fallait ressortir de la salle complètement, on pouvait pas rester
entre deux. Tu peux pas tout voir, dans le fond, là.
c'est vraiment, vraiment très dur. Je veux dire, la première chose qu'on a vue, c'est le McCollum Spectacular, que j'ai juste là, si je me trompe pas, c'est ça. On n'a même pas été aux cérémonies d'ouverture de la convention. Il y en avait, puis on a fait... Regarde, c'est soit ça, soit qu'on va voir 8 minutes d'épisode 2 en digital avec le projecteur digital de la convention. C'était vraiment, vraiment fou. C'était incroyable tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, je veux dire, on en pleurait presque. Puis après ça, on est retourné à cette même conférence-là, juste pour voir les extraits de Yoda qu'il rajoutait. Puis ça nous a fait triper toute une gang. Je veux dire, la Star Wars Celebration, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait évidemment les conférences avec les vedettes. Ils ont réuni les pilotes qui sont morts lors de la première attaque de la Death Star.
Ah ouais.
C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé ça aller voir, mais que j'ai pas eu la chance parce que j'avais juste pas le temps. Il y avait comme trop de choses à faire, comme dans la majorité des conventions. Il y avait une partie des costumes de l'épisode 2 avec des props de l'épisode 2. Le Jedi Starfighter, je me suis
tenu... Grandeur réelle, moi j'ai vu des photos.
Je me suis tenu à 3 pieds du Jedi Starfighter. On avait juste envie de rentrer dedans, puis on était assez fous pour mettre un gars pour le surveiller. C'est la preuve que les fans de Star Wars sont quand même respectueux. C'était pas long que le cap sautait. Et puis, il y avait vraiment un paquet d'activités. Il y avait une salle de vendeurs qui était ouverte. Ils ont donné des livres vendredi, ils pensaient que ça t'offrait toute la fin de semaine, ça a duré le vendredi après-midi, puis ça a été tout, ça l'a fini là. C'est sûr qu'il y en a qui ont raflé plus de choses que d'autres.
Il y a eu toute la folie des George Shackle qui sont partis.
La folie des George Shackle, ça c'était assez effrayant. Ils avaient prévu je sais plus combien de George Shackle, puis ils avaient dit qu'il va en avoir assez pour tout le monde, tous les collectionneurs vont en avoir. Ils en ont manqué. Mais il y en avait encore jusqu'à la dernière journée, puis à la dernière journée, c'est vers la fin là, qu'ils en ont vraiment manqué. Mais c'était 20$ à peu près. Non, c'est pas ça. C'était quoi? C'était 10$, je pense, la figurine. Je m'en souviens
US,
même plus.
Ouais.
10$ US, la figurine. Puis j'en ai moi-même ramené 8. Et je me sens pas coupable parce que je sais que je les ai ramenés pour des collectionneurs qui m'ont donné l'argent. Puis il a fallu que j'attende en ligne. À chaque jour, j'attendais en ligne pour
avoir le droit magasin. À X par jour.
On avait le droit à 2 parfois qu'on se présentait.
Okay.
Fait qu'en fait, il y en a qui sont allés dans une journée là, plusieurs fois. Il y en a qui sont sortis de là avec des boîtes de George Shackle.
Mon Dieu, il était là juste pour ça, la revente.
Exactement. Mais bon.
Ça risque d'être plus contrôlé
la prochaine
pour le troisième.
Je pense qu'ils vont faire plusieurs autres. Ils vont faire d'autres choses que ce qu'ils sont fait à ce moment-là. Star Wars Celebration, c'était aussi évidemment tout ce qui se passait à côté de la célébration. Il y avait le musée des enfants d'Indianapolis, le Children's Museum of Indianapolis, qui avait une petite salle qui était réservée justement à l'épisode 1. Il y avait le Naboo Starfighter qui était là. Je me suis encore tenu à 3 pieds du Naboo Starfighter. C'est vraiment le fun de remarquer que les bouts en métal du Starfighter qu'ils ont utilisé dans le film, c'est fait avec du duct tape métallique, là, on s'entend. Mais
il y avait un concert aussi.
Il y avait un concert, effectivement. Le samedi soir, il y avait un concert qui était donné sur place, qui était malheureusement pas dirigé par George Williams,
John Williams,
mais c'était prenant. C'est l'Orchestre symphonique d'Indianapolis, si je ne me trompe pas, qui ont fait un job merveilleux.
Et on va sûrement vous reparler encore à la fin de l'émission du concert Star Wars qu'il va y avoir à Montréal.
Le 14 juin.
Le 14 juin, on va vous en parler à la fin.
C'est cela. Et faut y aller au moins une fois. Dans une grosse convention de masse comme ça, c'est Massively Fans Convention. c'est vraiment fou. Je veux dire, on rencontre des gens comme Steve Sansweet, on rencontre des gens comme Rick McCollum. Il y a un de mes amis que Rick McCollum s'est assis à côté de lui. Ils se sont présentés, ils se sont parlé, puis à la fin de l'entrevue avec Kristen Anderson. Hey, c'est moi qui se fais pogner à ce jeu-là, c'est pas. C'est mauvais. Hayden Christensen, ils sont allés le rencontrer backstage, puis comme ça, on sait un petit peu où ce qu'il reste maintenant, puis on a des contacts avec lui. Là, bon.
c'est quand même assez intéressant de pouvoir rencontrer des gens comme ça, comme Trisha Bigger, qui est la costumière de l'épisode 1, épisode 2. Moi, je l'ai rencontré, je lui ai serré la main, ça m'a...
Dans le fond, les seuls qui sont pas là à convention, c'est les derniers, les animateurs puis les effets spéciaux qui sont en train de rusher pour finir leur travail. Toutes les comédiens puis ça sont toutes là, toutes les personnages les plus importants de la production, etc. sont toutes là.
Sauf Natalie Portman, pour une raison qu'on ignore. Elle était pas là. Puis c'était vraiment émotionnellement, c'était prenant, mais c'était vraiment super trippant. La troisième, on sait pas où elle va avoir lieu encore. On va essayer de tirer les verres du nez de Steve tout à l'heure quand on va avoir, quand on va faire l'entrevue avec lui. Mais bon. Seul le grand George.
Le sait. Même lui, il risque de pas le savoir. Ça doit être Wizard qui le sait.
C'est exactement ça. Mais quand même, il y a un bon indicateur que ça risque d'être encore Indianapolis. Il y a une convention qui se faisait au Milwaukee, qui s'appelle Gen Con, qui ça fait 25 ans, je pense, qu'elle se faisait au Milwaukee. Puis cette année, il a déménagé exceptionnellement à Indianapolis.
Okay.
Puis c'est une compagnie qui est tenue par Wizard of the Coast.
Okay.
Et Wizard of the Coast, maintenant, possède beaucoup de conventions comme ça. Puis je pense que le Indianapolis Convention Center va bientôt s'agrandir. Il y a peut-être des hôtels qui vont pousser autour d'elle. Là. On va tasser l'autoroute.
Bon, mais on va terminer là-dessus pour... Star Wars Celebration.
Je vais juste en profiter pour dire que le 27 avril prochain, MONSFA, qui est l'Association montréalaise de science-fiction et de fantastique, on fait justement un panel Star Wars Celebration One Year Later. Ça va se passer probablement en anglais. Il va y avoir plus d'informations sur le site par rapport à ça, mais ceux que ça leur intéresse de voir comment ça se passe une Star Wars Celebration, ceux que ça leur tente de voir nos photos, je sais qu'il y a j'ai pas encore mis d'update sur le site par rapport à ça. Venez voir en personne, faut rencontrer les gens qui ont été, moi, Marie-Claude, Linda, Dominique. C'est vraiment une expérience à partager, mais en personne à personne. C'est pas quelque chose qui se lit sur un site web. Fait que venez voir ça, puis vous allez voir, je suis sûr que vous allez triper. C'est le 27 avril prochain, c'est au meeting de MONSFA. On va mettre plus de détails là-dessus sur le site.
Alors, on part immédiatement en pause musicale. Et puis, on va revenir en ligne en anglais avec Steve, évidemment. On va l'appeler. Et puis, for all those English listeners out there, we will do a short musical break. You can join us on irc.afternet.org on the Setclan channel. And we will be back right after our musical break. Anything to add? No?
Not really.
Okay. And we're gone.
Star Wars en direct vous revient après cette pause musicale.
Make up your mind, and I'll make a mind. Don't worry about me, I'll be fine. Those words that you said to me, why wasn't I listening? I wish I hadn't met you at all. I started thinking, I'll sit back and relax. Let's make up and do this for
Star Wars en direct vous revient après ces quelques messages. Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hi, everybody. everybody, this is Josh from TheForce.net. When you get online, be sure to stop by the number one fan site for Star Wars for your daily dose. Our Star Wars news is updated literally a dozen times a day. We cover everything from the upcoming Episode 3 to the latest video games and collecting news. If it's connected to Star Wars, you'll find it on TFN. Post your thoughts about Star Wars, react to the latest news in the Jedi Council forums, over 10,000 posts a day. Stop by our side of the internet, TheForce.net, your daily dose of Star Wars.
Hi, I'm Sean Lee.
And I'm Shane Dix, and we're the authors of the new Jedi Order trilogy, Force Heretic.
You're listening to Star Wars on Direct on Radio Sith Clan.
Star Wars en direct, rencontre.
Michael Stackpole.
Tommy Keller. Kenny Baker.
Jeremy Bullock.
Walter John Williams.
I'm Sean Williams.
I'm Shane Dick.
Welcome back, everybody, to Star Wars en direct. We've got Steve Sansweet with us on the line. So, welcome, Steve.
Thank you very much. Bonjour. Hello. Buenos dias.
Yes. Okay. So to give a little introduction to our listeners about who Steve Sansweet, where does he come from, and so on. He's a Lucasfilm director of content and management and fan relation as well, head of fan relation actually. He's the author and co-author of several Star Wars books and a collector extraordinaire.
Yes.
Yeah, I've got a couple of toys. Yeah.
Welcome to the show, Steve.
Thank you very much.
Okay, we'll go right ahead if we don't want to.
By the way, what's the weather like in Montreal today? I understand it snowed in Western Canada this week.
It's snowing right now.
Oh my! I'm glad I'm not there. Hey guys.
We're used to living on the planet hot.
Yes, indeed. I lived up there for a couple of years, so I understand.
Okay. First question, can you give us a brief history of your career before you got picked up by Lucasfilm?
Okay. I always loved writing, and so my primary career, and I thought the one that I would do until I retired, was journalism.
Mm-hmm.
Out of college, I worked for the largest newspaper in Philadelphia, my hometown, the Philadelphia Inquirer,
uh-huh.
Not the National Enquirer. I never worked for that paper. And then a few years after that, I went to work for the Wall Street Journal because mm-hmm. of their wonderful feature writing and started to learn about and loved writing about business. So I worked for the Wall Street Journal in Philadelphia.
Mm-hmm.
Then I went up to Montreal for 2.5 years and covered all of Canada, went all over from Montreal to the Yukon, to the mm-hmm. White Horse, to cover an Eskimo Olympics. I just had a ball up in Canada and a lot of friends. And then it got a little too cold for me, and I demanded a transfer to California, and the Los Angeles Bureau was the one that was open. And so I went to Los Angeles and eventually became Bureau Chief in Los Angeles of the Wall Street Journal. Mm-hmm. We had an office of 14 reporters, and I was bureau chief for 9 years until 1996.
Mm-hmm.
And then something else came along.
Yeah. A lot of Star Wars fans think you have the best job in the world by promoting Star Wars and meeting fans from all around the world.
Well, to me, Star Wars has been about meeting people,
yeah.
making friends. I now know people and have friends literally all over the world,
mm-hmm.
and it doesn't stop. I mean, it continues. Star Wars, to me, is about people, and, you know, you see that in big gatherings like the 2 celebration events that mm-hmm. we've had, in the fan conventions that I've done and I'm continuing to do, and, you know, just on a one-on-one thing. I mean, it's amazing. I've just had long-lasting
yeah.
friendships everywhere from Japan to Thailand to Germany and all over the world,
mm-hmm.
and it's a real community of Star Wars fans.
Yeah, you see the passion from everyone.
Yes, absolutely. And people have different kinds of passions too. But
mm-hmm.
You know, some is more collecting, some is more the movie, some
yeah.
is the expanded universe. But everybody is drawn together by that love that was engendered by
mm-hmm.
by Star Wars.
How did you get this job? How did it happen? The job for Lucasfilm?
My name and a hat, no. What happened was it was time to do something else at the Wall Street Journal after 9 years in that job, and I could have stayed and gone back to New York, which I didn't want to do, or done or going back to reporting, or become editor of a new section. But at the time, it was just after George, a couple of years after George had announced that not only was he going to remake
the special editions,
editions, and you know, clean up the films and do a couple of changes, but he was also going to make finally the Star Wars prequels.
Mm-hmm.
And you know, I just sort of dreamed about that a little. If there was any time in my career that I would have thought about, well, changing jobs, it would be to be on the inside at Lucasfilm while George was making the new trilogy. That would be very exciting to me, as you know, just from my natural curiosity, because of my fandom. I had met George. I'd interviewed George the first time in 1987 mm-hmm. over the phone for a column in the journal about the 10th anniversary.
Okay.
I interviewed George at the ranch for my first book, Star Wars, From Concept to Screen to Collectible, and knew a lot of the people up at Lucasfilm. And so, you know, we started to chat, and they needed somebody to do fan conventions to explain the special editions. And I needed to finish the Star Wars Encyclopedia, which I was having good luck doing. And so I just decided, you know, it was just a one-year job at the time, but I decided I would go for it and trust that something might come up after that, and it did. So I joined Lucasfilm in February of 96.
Right. And now your dream come true.
Yeah, sometimes you have to be careful that you get what you wish for, but it's been really great.
But how can I get this job?
You have to knock me off first, and I'm very resistant to that.
Yeah, we've got a question from a Star Wars Galaxies beta tester. He wanted to to stay anonymous. He said, does wearing a beard is a requirement to work at Lucasfilm?
No, I think I had my beard as long as George has had his. I've had mine for, probably 30 years off and on. I originally grew a beard because when I was at the Wall Street Journal in the early years, people thought I looked too young.
Too young, yeah.
And I would meet these very important top corporate executives, and sometimes they would call back to my boss and say,
"Are you serious?
Is he over 17? I mean, so that's when the beard started, and I've just kept it ever since.
Okay. What's the worst part, or let's say the less enjoyable part of your job?
Golly.
Nothing?
Least enjoyable part of my job. I don't know quite how to answer that. I really enjoy just about everything that I do. And, you know, nothing is...
Maybe the long hours or something, no?
No, because, I mean, you know, there are times when it's a little slow, and then there are times, like, you know, 9 months before celebration, when it requires working 5, 6, sometimes 7 days a week, sometimes 12 or 14 hours a day, but there's a goal there, and the goal is a very exciting one. And so you know you're going to have to put in that kind of effort, and you're not judged on the hours that you put in, you're judged on the accomplishments that you succeed in doing.
Yeah. Okay.
Well, if I may introduce something, is it maybe like, is sharing your office one of the bad parts of the job?
Well, I had to share my office up until last August because we were at Skywalker Ranch, and Skywalker was originally built for far fewer people, and the company has really grown over the years. Mm-hmm. And the way Skywalker is set up, there's a main house, and then there are individual houses, but, I mean, they are obviously large houses, and they have many rooms, but still we kept growing and growing. So towards the end at Skywalker, I was sharing my office with one other person, but it was very tight, very cramped facilities. Mm-hmm. So we've moved Ranch, sort of Skywalker Gate 2, or what was okay. Big Rock Ranch, mm-hmm. which is another 2 miles down the road, and it's a beautiful building inspired by Frank Lloyd Wright architecture, and it's the first time at Lucasfilm that I've had my own office and close the door and concentrate to do my editing or writing, so it's great. Mm-hmm.
Okay, we will go directly to some collecting questions. We got a lot from friends.
Now, if they're going to ask me about the weird 0.3 variation of...
No.
No, okay.
Okay, first question is from Dalsk. You are known to have the biggest private Star Wars collection in the world. How many items compose your collection approximately, and for how long have you been collecting?
Well, the number question is one I wish I knew. I don't know whether for instance, if you count each trading card as a separate item,
mm-hmm.
Do I have 100,000 pieces? Do I have 200,000 pieces? I haven't the faintest idea because... we have started and stopped doing an inventory several times, and
okay.
So I mean, unfortunately, things have been so busy at work the last number of years that the inventory sort of the process remains on hold.
Mm-hmm.
And it's something I really want to do, but right now I have things in such a way that I can find everything because of the way the collection is organized.
Mm-hmm.
So it's not as important as it used to be. So. I really haven't the faintest idea. A lot of stuff.
And how long have you been collecting?
I started collecting really months before the movie came out in 1977.
Okay.
And my very first item, which of course I still have, I had the novelization, which came
mm-hmm.
out in the fall of 76. But
yeah.
And that's certainly a collectible, the paperback
mm-hmm.
version. But the guy who covered the movie industry for us at the Wall Street Journal
mm-hmm.
had received this wonderful spiral-bound brochure that they had sent to theater owners
okay.
to solicit them to bring Star Wars into their
mm-hmm.
movie theaters. And, he looked at it and, it's fine. And then... put it in his trash can. So he left for the day, and I just sort of went over to his trash can and rescued it, and I still have it. So that was my first collectible.
Okay. Do you treasure one piece in particular?
People frequently ask me what my favorite piece is, and I usually say...
the old thing.
No. It's actually whatever I just got.
Okay.
Okay, who is your favorite child? And, it's
yeah.
impossible to say. And so I really treasure everything. And then sometimes I'll go through the collection and find a piece that I haven't looked at for a while and say, oh, wow, that's really cool. I forgot I had that.
Yeah.
So there's not really any one piece that stands out over any other.
Okay. I've got two questions from The Real Boba Fett. Do you own vintage figures with the Revenge of the Jedi logo?
I have a full set of Revenge of the Jedi card without anything on them.
Wow.
They never released any Revenge of the Jedi figures,
mm-hmm.
carded figures. They printed up thousands of the cards. They destroyed most of them.
Mm-hmm.
But there were a bunch... circulating around, and there are 50 altogether if you count the two sort of misprints, 48
okay.
Actual figure cards, and I've got a full set of those.
In the same line of question, by working for Lucasfilm, do you have advantages in getting hard-to-find pieces like props, models,
I have
from the movies?
Advantages, because ever since I've started working for Lucasfilm, I just stay away from a lot of things and don't try to get props and
mm-hmm.
things like that. It's I have some of that stuff. All of it was obtained before I joined Lucasfilm. I just feel a little uneasy about trying to get any of that stuff.
Mm-hmm.
After I've been an employee, so it's not really become any easier for me, and in a way, a little more difficult.
Yeah, but the wrench got an archives of props and everything, I suppose.
Which doubled after episode one.
The prop archives is, there's a large prop archives, as everyone knows, at Lucasfilm.
Mm-hmm.
And, when there's need for me to go over there, the prop archives is closed even to employees, because we really try to keep it in a very controlled environment, because mm-hmm. these are items that were never meant to last. And so our collection managers are doing an amazing job in conserving and organizing and preparing to send out on exhibit. Because these are real treasures, and the fans want to see them, and that's why we did the Magic of Myth exhibit and the Art of Star Wars exhibit in Europe, and we're doing another exhibit in Japan coming up. So, these are real corporate assets, and we need to keep them as safe as possible.
Okay. Two questions from Christopher Fienga. I don't know if I pronounce it correctly. Will we be seeing another Expanded Universe collection in the near future, and if so, will there be new Jedi Orders item included?
Hasbro is always looking at the possibilities of what to put in the line. And they've got long lists, and mm-hmm. they're constantly revising the lists and what's on top of the list. I think right now, they see plenty of opportunity for saga figures that haven't mm-hmm. been produced or haven't been produced in a certain format. But when the right time or the right project comes along, they're certainly not averse to doing mm-hmm. Expanded Universe. And in fact, this fall we'll see some very specific Clone Wars figures from the joint project that's really Dark Horse Comics, Del Rey Novels,
mm-hmm.
Cartoon Network, the animated series of 3-minute shorts that'll start this fall.
Mm-hmm.
And then there will be some Hasbro action figures and a vehicle based on Clone Wars. And that'll be fun.
Yeah. I got a question from Chuck McMahon. I think I'm pronouncing it correctly. Concerning that, do you have any power to push Hasbro a little into giving the fan particular figures? He desperately wants a figure of Yarna Dol Gargan, the fat dancer in Jabba's palace.
Yarna, one of the more attractive figures in Star Wars. Why haven't we had a Yarna figure? I actually have a prototype Yarna figure from back in 83, 84. It is not the most attractive figure in the world, but it's interesting. I think over the years, Hasbro just announced not too long ago that their contract for Star Wars toys has extended to the year 2018. So if we don't have a Yarna Dol Gargan figure soon, I'm sure by 2018 we'll have one. I mean, under every table in the cantina to come up with a new figure.
Yeah.
So I think the odds are pretty good. No, I don't really have much power at Hasbro. They sometimes ask my opinion on things, but people start petitions on the internet. Believe me, Hasbro looks at those things,
mm-hmm.
and that's why the whole fan choice figure, those are absolutely real polls, and they sort of set the parameters by listing 10 or 15 possible figures, but it really is a fan choice figure, and I don't think they expected Ifont Man to be, Ifont Man won the poll, but it's just a figure. So I suggest that this guy, start some buzz and try to get some of the fan sites interested in a Yarna Dol Gargan figure, and then Hasbro really does look at all of this input from fans.
Okay. Another question from Christopher. There's a big problem in Europe, and especially in France, where they receive new waves of collectible months after their original release. Waves are even incomplete and are released very slowly. Do you have influence over the international distribution of Star Wars collectible? And if so, can you make this situation better than it is right now?
Well, Hasbro is very much aware of that.
Yeah.
Very much aware that international fans, that it's very difficult, even in Canada, to get full waves of figures that are released in the U.S. It's not Hasbro's fault. They're in business to make toys and to make money and to make a profit. They are happy to produce and distribute the figures anywhere in the world. The problem is getting the retailers to buy them.
Yeah.
And so if there isn't enough retailer interest, I mean, you know, what Christopher and friends need to do is go to some of the major toy retailers and say, we're not getting enough Star Wars figures. And if they keep hearing that from enough different people, they're going to start to wise up. I mean, that's, to some extent, the problem in the U.S., too, is retailers these days see licensed toys as, oh, well, the movie's coming out, we'll have the toys in for 4 months, and then, you know, then we'll be in the next hot thing. You know, Star Wars, a Kenner slogan back in the 80s, Star Wars is forever, really true in my mind. And there is really a large and deep audience for Star Wars toys and collectibles. And people need to make their feelings known, not to Hasbro, because Hasbro is happy to ship all of its line everywhere. It's a matter of getting the retailers to buy it in, because you can't ship stuff and keep it in the warehouse if nobody's interested in it.
A guy, a staffer named Revenge, wants to know, you really like your book, Star Wars The Action Figure Archives, and would like to know if you are planning to write another toy guide or book.
There are no current plans to do a follow-up to Action Figure Archive, although I would dearly like to see one too, even if I didn't write it myself. It's possible that a follow-up version of the book will come out from a different publisher in Japan, and if so, then we will, you know, possibly get another translated version in the U.S. Now, the Action Figure Archive book was originally done as a MOOC in Japan, and a MOOC is basically a magazine, but it's perfect bound like a book, and can stay on the magazine shelves longer than the magazine. They pull off a magazine in a month, but a MOOC can stay on for many months. So that was originally done by my friends Aime Takeda and Tejai Sakahashi in Japan, and then I did the translated, redone version in Chronicle Books, completely laid it out differently for the U.S. market. So someday, but there's nothing on the immediate horizon.
Okay. Sebastian, add a question.
Well, yeah, well, talking about the lists and stuff from all the figures and everything, we know there's no such thing as an actually accurate list of all the Star Wars action figures and their variations. Do you think there's any way we can expect to see something like that in the coming years, in the future, you know, with all the different brown hair, blonde hair...
A book?
Yeah.
there have been some people who have worked on manuscripts on every card variation, every figure on every card variation, Luke yellow hair, Luke brown hair, you know, Obi-Wan white beard, Obi-Wan gray, and I've seen some of those manuscripts, and the problem right now is that some publishers are, you know, well, gee, is there really a market for that? And, you know, yeah, there really is a market for that. So, you know, I would hope a book like that, whoever does it, that it would be reviewed by a lot of collectors who are, you know, variation hunters, so nothing gets left out. But, you know, nothing can be 100% perfect.
Well, can we...
And I don't know of any book quite like that that's in the works right now. I know people have toyed with that, you know, over time. But, yeah, I think that would be a valuable resource. Now, we get into the whole question of variations and what's a variation, and this is a frequent question I get in the Scouting the Galaxy column in Star Wars Insider. And, you know, some people, oh, I have a Leia without eyes.
Yeah.
Well, you know, all that means is the, you know, it's the people on the paint line in China forgot to put the two dots in there. Does that make it a valuable variation? And so you can go crazy, you know, saying that something is a variation. If it's a one of, it's not a variation. Mm-hmm. If you know, there's a whole bunch of Boba Fetts with no circle or half a circle. Yeah, that's a variation.
Okay.
If there's an R2-D2 with a holographic layer projection and the wrong peg is in there and the dome is too big for the body, yeah, that's a variation.
Mm-hmm. Okay.
Even on the cards, I mean, sometimes the variations are silly because all they're doing is they spelled the word wrong and they've changed the word, and so they have to change the number on the card. The card is changed, number on the card is changed for a card change, not a figure change. But, you know, all those kinds of things are legitimate variations, and some people go, you know, bonkers over those. And I've got, you know, variations to some degree. But some of the really crazy ones, I just say, shake my head. And oh, you got cheated. That's not a variation. That's a mistake. It's worth less than what you bought it.
Yeah.
Yeah. But, I mean, instead of seeing a book, maybe because it's stuff to be published, do you think we can see something like that on StarWars.com eventually?
Well, I think you will see the StarWars.com cargo bay get ever more sophisticated. And there are lots of things that are about to happen on StarWars.com that are very exciting.
Okay.
And just need to sort of stay tuned. But there are some changes ahead for StarWars.com that I think will be very exciting and will be that fans will like quite a lot.
Okay, I've got a question from Ellen Howerton. She's collecting Padme Amidala's item. She got over 600, and she wants
That's
to know.
A lot.
And she wants to know what are your thoughts concerning the future of Star Wars collecting, especially the prequels item.
Okay, what are my thoughts concerning it?
Yeah.
You know, I think for a lot of core collectors who started collecting in vintage, you know, they some of them have reluctantly got into prequel stuff. Some have not done prequel stuff and stuck with vintage. And I think, you know, you see that the action figures today are saga action figures.
Mm-hmm.
And I think the future is just a good mix of all six movies.
Yeah.
And will continue to be a good mix of all six movies. I think what we learned is, you know, when there was a line of nothing but episode one figures on very specific episode one cards, that there wasn't as broad an interest as there would have been if that had all been sort of mixed up and people still were able to obtain new versions of Vader. And that's slowly happened, and now it's a definite part of the whole program is, you know, you always mix the new with the old. And the Star Wars saga is one story of six chapters. And, you know, eventually when all six films are done and all six films are shown in the movie theater mm-hmm. together over a couple of days, and all six films are available on DVD, you'll really get a different appreciation, I think, of the prequels and how they fit together with the classic movies, and it will really be seen as a six-part
yeah.
story. And I think the prequel, so-called prequel collectibles, will come into their own at that point.
Okay. Now we will go to Star Wars movie and expanded universe questions. The first one, the hype for episode one was the biggest ever seen in a long time. You could also say that about the overly huge promotion campaign that followed it. What did you learn from that, and how did it affect the promotion for episode two and probably episode three?
Well, I think what you saw with episode two was a realization, and you know, Lucasfilm executives have publicly said that there was so much out there for episode one. One of the things that we had little control over and did not realize what would happen is that when the first trailer mm-hmm. was released in November of 98, the media just went crazy.
Yeah.
And it didn't die down until the movie was released the following May. And so it was out there really early, and there was this heat. And look, episode one did an amazing job at the box office. But I think there was a feeling that there was too much merchandise out there, too many categories in too many stores, and it was it was really, you know, like in your face kind of thing.
Yeah.
And so it was a deliberate attempt by Lucas Licensing to sort of pare back the core categories for episode two, and on the part of Lucas Marketing, to, you know, be very selective with promotional partners, and so it, you know, not quite as much out there, and you know, more good things to sort of surface. And I think, you know, we'll sort of look at the lessons of episode one and episode two, and come up with a game plan for episode three. So I think you'll see it'll be different yet again.
Okay, that's cool. To the joy of international fans, Attack of the Clones was a world release instead of their usual seasonal releases. What made you take that decision, and did the petition running on the web had any influence in the decision?
Well, I would like to say it was totally because of the fans' petitions, but that really wouldn't be true.
Okay.
You have to base a decision like that on business decisions, and certainly we listened to the fans, and we knew darn well what the fans wanted. And, you know, does that somehow enter a little piece into your decision? Yeah, I'm sure. But it was very much a business decision as to what could be done and what would be the best for the movie.
Mm-hmm.
And based on release patterns and how release patterns are changing,
yeah,
and, you know, other events in the world happening, other big events. Mm-hmm. I mean, you sort of look at all of that, and you make a decision based on what will be best for episode two.
Mm-hmm.
And that was the decision we made.
Yeah. Did you reconsider the world release at one point?
I'm not sure I understand.
Did you reconsider the world release at one point?
Thinking of going back to the old way of releasing it.
Yeah.
You mean for the next movie?
No, for the episode two.
No, I think once the decision was made, you know, as I said, you know, they did a lot of studies were done internally and with our partners at Fox,
mm-hmm.
And we got a lot of recommendations in, and then, you know, the decision was made, and ultimately it's George Lucas's decision.
Okay. And how difficult it is to coordinate such an endeavor like a world
very
race?
Difficult. And we're very lucky to have great distribution partners with 20th Century Fox.
Mm-hmm.
It puts added pressure internally on the marketing and publicity staffs at Lucasfilm, but it was a hugely successful opening worldwide.
Mm-hmm. Yeah. Last November, you released Clones on IMAX screens, and for the first time, you included the local fan base association to help.
How would you know anything about that?
I don't know.
You can admit it. You helped out too.
Yeah.
The plan was very involved in the 501st up in Montreal.
Yeah.
It was great.
Yeah, okay. And I will reread the question. Last November, you released Clones on IMAX screen, and for the first time, you included the local fan base association to help the promotion of the movie itself by creating events around the release. An unusual action from Lucasfilm if we look back over the years. What made you take that decision, and can we expect the same support from Lucasfilm for events and movie premieres organized by fans for episode 3?
I think clearly there has been a growing and strengthening relationship between Lucasfilm and the fan group. And, you know, early on, there weren't very many organized fan groups.
Mm-hmm.
And, you know, there was a North American fan club, you know, U.S. and Canada, but basically it was just the magazine, and in the early years, the magazine and the merchandise kit, but not really organized groups. So it's really only since the special editions in 97, and even more so with the lineups in 99, the fans themselves have started to get organized at the grassroots.
Mm-hmm.
And then you get the costuming clubs like the yeah, great 501st,
yeah,
and you know, the Rebel Alliance, yeah, and
the Rebel Legion, I think.
Rebel
and
Legion.
The, and what?
Yeah. It's the Rebel Legion, I think.
There's also a Rebel Alliance.
Ah,
yeah.
Okay.
Yeah. So, yeah, but there are a number of groups like that. And you know, more and more we see these groups, and it, while the IMAX launch was the first, you know, really major open public kind of mass relationship between Lucasfilm and the groups, and where we tied in StarWars.com, mm-hmm. and we linked to, you know, various fan sites and, yeah. you know, and things like that. You know, I've been working strenuously behind the scenes to, you know, make contact with and help out fan groups all over the world, unofficial fan groups, for years. And mm-hmm. so the IMAX launch was sort of the culmination of that, and you can absolutely look forward to a close and continuing relationship with Lucasfilm and its fan groups, not only up through the launch of Episode 3, but beyond.
Okay, that's great. The Europeans were happy about the world release, but were disappointed that IMAX didn't make it overseas. Is there any plan for that, or a reason that it didn't make it?
Well, there are no current plans. The main reason it didn't make it is that in order to play in IMAX theaters these days, mm-hmm. Most IMAX theaters, the maximum playing time of the film is 2 hours.
Okay.
And so the film had to be edited in that, and a lot of theaters only have 90-minute capacities.
Yeah.
In order to do that, then you have to not only edit the film, you have to edit the soundtrack. And mm-hmm. so that means not only doing it once, but doing it in all the various languages or in yeah. the subtitles. Right? You can't really subtitle an IMAX film because of the nature of the film. The title would be, you know,
enormous
at the very bottom of the screen.
Mm-hmm.
So it was a matter of not having a whole lot of time, and you know, the additional expense and the additional time it would have taken. Now, you know, is that something that we're continuing to look at? Sure. And, you know, IMAX is always a possibility at any point. And, you know, the whole nature of film projection and film mm-hmm. distribution, and certainly George Lucas and Rick McCallum and Lucasfilm have been pushing digital projection. And so, you know, anything is possible in the future. But, as I said, there are no current plans mm-hmm. right now for any additional IMAX action. But, anything is possible.
But they're will happy to know that there is hope. So
there is always hope.
Yeah.
Always a new hope.
Okay, were you disappointed in losing the Best Special Effect Oscar to The Two Towers?
Yeah, sure. I mean, I think the special effects accomplished in Episode 2 were amazing. But,
yeah.
you know, we also realize the Two Towers special effects were amazing, too. There were mm-hmm. a number of former ILM people who were working at Weta mm-hmm. in New Zealand, and we think they did a spectacular job, too. You know, awards, you know, we won an Australian Animation Award mm-hmm. for best visual effects in computer animation for
yeah.
Episode 2, and, you know, we've gotten other honors over the years. So, yeah, there's plenty to go around.
But for the fans, Star Wars, even if it doesn't win prizes, it will always be first in their art. So I know for a fact that you collect Star Wars books.
One or two.
And there are a lot of fans that deny the expanded universe because it's not written by George Lucas, or they simply don't give it a try. What are your comments about the expanded universe versus the story of the movies, and how would you convince fans to read the expanded universe?
I think it's not a matter of convincing fans to read the expanded universe. It's a matter of convincing fans and a lot of people to read, period.
Okay.
And, you know, one of the problems these days is that with so much else to do and so much visual out mm-hmm. there, that you find that reading for pleasure has really gone to, oh, no, I'd rather play the video game, I'd rather go to the arcade, I'd rather go out, you know, running, or, you know, whatever it is. Yeah. And people need to remember, because everybody read going through school, that
mm-hmm.
that reading can be an amazing experience and
yeah.
an amazing visual experience in your mind's eye
mm-hmm.
because you're creating the look of the characters and the action that's going on. It's a very visceral thing. It's, you know, you're looking at TV and you're looking at video games and you're sort of, you know, you're very much directed.
Yeah.
When you read, it's the heart of fantasy is reading, and that's where I developed my love for science fiction and you know, very young, reading the classic authors, Asimov and Heinlein,
mm-hmm.
and it opened amazing worlds to me, and that's what all fiction and certainly the Star Wars expanded universe can do.
Mm-hmm.
Do I expect every fan to read every book? No, but you know, there's ample stuff to pick and choose. I think the New Jedi Order has been amazing,
extraordinary, yeah.
And this was very much conceived of a story arc. There's some new books coming out that are great. Some of the classic ones, people say, well, how can I start on this? I mean, there's nothing better than Tim Zahn's Thrawn trilogy.
Yeah.
It's really great stuff. And he made, an extraordinary villain who's not, certainly not all dark in Grand Admiral Thrawn.
Mm-hmm.
So there's plenty out there. I mean, the true canon will always be, the movies
yeah.
As George has done them. But, George has input into the overall story arcs. They're presented to him, or, he's asked, well, can we do this or can we do that? And he'll say yes or no. In the novelizations, it's very much George talking
mm-hmm.
to the authors. So, there's still a tie there.
Yeah, that's exactly my next question. There's a lot of continuity errors in the expanded universe, and Attack of the Clones didn't help in reducing them. We know George authorized a lot of storyline for books, comics, and such, but does he take a little consideration on what has been done by Star Wars author when he writes?
No.
No?
Nope.
Okay. That's answer.
He does is his own.
Okay.
And then it's up to all us gnomes in the back room to sort of figure out continuity patches.
Okay. Like we saw in the Essential Guide, I think there's a big patch for Boba Fett there in the new Essential Guide.
If you read it very carefully, it will say, well, these are at least some of the stories that Boba Fett spreads. We don't know if they're true or not.
The patch I was talking about. Okay.
Good job there.
Yeah.
We have three questions from Staffer Raven.
Uh-huh.
He would like to know when you're going to be watching the movies in the future. Are you going to be watching Star Wars Episode 1-6 or Star Wars Episode 4, 5, 6, then 1, 2, 3?
I think that's a personal choice, and I think when all six are done, it'll be fun to sit down and watch them in numerical order, 1-6, but all of us fans know the movies so well, I think you could watch them out of order and still have fun with them.
Totally. Are you planning on having an Ultimate Edition Attack of the Clones soundtrack coming up?
I have asked that question and I haven't gotten an answer, so I really don't know.
Yeah, the double CD, I think, is... a lot of fans are waiting for it.
I know, and as I said, I know personally of nothing in the works right now, but I don't know the definitive answer on that.
Okay.
Okay. Do you know if there's ever going to be a radio drama of Episode 2?
Well,
or 1?
That's an interesting question. And I've recently answered that for StarWars.com for Ask the Jedi Council, so I don't want to take away the suspense from that answer.
Okay.
Oh, okay.
We will see that after the show, right?
That will be on, I answer a batch of questions at a time. So,
yeah, that's it. They just put it up
at some point.
Mm-hmm. Okay. Now, we're reach up the sponsor break, so... everybody, stay tuned. We'll do a 1 minute break and we will come back with Steve right after this.
Patience, my friend. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Hi everybody, this is Josh from TheForce.net. When you get online, be sure to stop by the number one fan site for Star Wars for your daily dose. Our Star Wars news is updated literally a dozen times a day. We cover everything from the upcoming Episode 3 to the latest video games and collecting news. If it's connected to Star Wars, you'll find it on TFN. Post your thoughts about Star Wars, react to the latest news in the Jedi Council forums, over 10,000 posts a day. Stop by our side of the internet, TheForce.net, your daily dose of Star Wars.
Hi, this is Troy Denning, author of Tatooine Ghost and the New Jedi Order novel Star by Star. You're listening to Star Wars Undirect on Radio Sith Clan.
And we're back on the air.
Hey, listen, if I had known that this show was going to be brought to you by the Force.net, I don't think I would have taken part.
Oh.
Oh, yeah, those guys, I mean, geez, no, they're good buddies, and they do a very nice site.
Okay.
However, the one true official site, of course, is StarWars.com.
And there's none
so
better.
So that all of your listeners go there all of the time.
Those in the chat room, you can send your question in by private message to the operator, the host, the one at the top of the chat room. They will be asked at the end of the end of the interview if we have time. So we're going to the Star Wars fans questions. The first one, you know, our website is in touch a lot with the French community, and so I will begin by asking the question they all want to hear. Last fall, you went to Paris in France at the Arkham convention to scout the possibility of making a Star Wars convention there and to promote the soon-to-be-released Attack of the Clone DVD. From that, some of the fans seem to think that the Star Wars Celebration 3 will be held in Europe. Is it a possibility or is it misinterpretation? I think it's more of a convention by itself, but not Celebration 3, maybe?
Star Wars Celebration 3 will be in the U.S.
Yeah.
At a site still to be determined.
Mm-hmm.
But we are working with our official French fan club and the Lucasfilm magazine,
yeah,
and its editor and publisher, Patrice Giraud,
yeah,
to possibly do a pan-European convention, possibly in Paris.
Okay.
So we're still investigating the possibilities, and I'm hoping that that something comes of that. But we're still quite a ways away from being able to make a final decision on that.
Okay. March 18th on the official site, you mentioned the condition necessary to be chosen as the city who will be hosting Celebration 3.
Right.
Can you give us a couple of I-listed candidates? Anything in Canada? No, you just answered that no. So
I mean, we want to be around a large population area,
yeah,
and we want to be central. We want to be in a place where a lot of people can drive into. But there's still a number of possibilities that we're looking at, and we have not picked a specific place yet. And a lot of it has to do with availability of convention facilities. Number one, it has to be a city with a large enough convention facility, but it also has to be a city that has the availability on the weekend or weekend, you know, the one or two weekends that we want to do it. And
mm-hmm,
a lot of convention centers are booked 3 and 5 and even 10 years in advance. And so it's, you know, it's a matter of saying, okay, well, the city's good, but gee, there's no availability when we need,
yeah,
it, or there's an availability, but the center's too small, or there's an availability, but there aren't enough hotels. You know, so it really is a matter of balancing a lot of different things.
When the decision will be made, when the location will be announced?
As soon as we firm up a location and have a contract with whoever's going to do it with us, We will as soon as possible, as soon as a deal is signed, both with a convention center and with a convention somebody who will run the event, then we will make an announcement on StarWars.com.
Great. Last year, Indianapolis was a great choice, if you don't mind. Yeah.
Indianapolis was a wonderful city. We had a lot of fun there. We loved Indianapolis. And certainly Indianapolis has been one of our considerations.
Okay, because we've seen rumors that the RCA Dome has been booked by Wizard of the Coast for May 2005 for some weekend there. Is your implant troubling or?
Wizards of the Coast no longer has an events team, and so that would be totally erroneous information.
Okay. Do you have any good memories from Star Wars Celebration 2 you'd like to share with us?
Oh, God, everything is sort of a blur. Yeah, I mean, there were lots of things about Celebration 2 that were wonderful. The Star Wars trilogy in 30 minutes, a group of actors from the university, originally the University of Southern California, George's alma mater, who put on the classic trilogy in 30 minutes, 10 minutes per movie. It was just a hoot. It was just so funny. And now they're doing it on weekends in Los Angeles, so it's not to be missed. The Jedi training with the little kids, and there was one, you know, 7-year-old in particular who was developmentally disabled, but his parents brought him. You know, he was still a big Star Wars fan, as was his mom and dad, and brought him there. And you know, to see him picked out of the audience to do the Jedi training, and then Darth Vader storms out, and he was just great. And you know, he succeeded against Darth Vader, and then he ran a victory lap around. See tears in his mom's eye, and she was so excited. The kids' room that we had there was always filled with kids who were doing coloring or learning from Ian McKaig how to do things, or playing games, making costumes. I mean, that was run by our great Marnie Karadash, who was in charge of Star Wars Kids. And, you know, all of the celebrities, and it was just amazing. And seeing all the fans, that was what made it.
Since you mentioned Ian, if you ever see him, tell him there's a guy in Canada that's very grateful for his 3-day Yoda pass.
Okay.
And it's not me, but I know someone.
Okay.
And I was wondering, I mean, after 2005, conventions of sci-fi are running like in the world currently. There's Gen Con, there's the Comic Con, there's the World Con. Can we see more Star Wars Celebration after 2005?
Well, I mean, I think it's really up to the fans. And if there is large support and evidence for something like that beyond 2005, I'm sure that's something we would consider.
Will 27,000 fans will be enough?
Yeah.
Okay.
Okay, what do you think about the impact of on the Star Wars franchise of big fan-based websites like TheForce.net, JediNet.com, StarWarsWithAZ.com, and how much do you consider all the other smaller and multilingual international websites?
Well, I think it's very healthy for the fan community to have outlets.
Mm-hmm.
You know, we love our fans and what they do. And we're very supportive of having independent fan websites out there that celebrate the love for Star Wars.
Mm-hmm. What are your opinion on spoilers and different leaks of information making its way to fans' computer screen?
Well, all I can say is if you're a true fan and if you believe everything that you see on the internet, you are in a fantasy world. So much of the stuff that comes out there is just pure baloney.
Mm-hmm.
And I know a lot of fans who, you know, a year or two out from a new release just won't go to any of the fan sites anymore. Because in fact, they sometimes accuse StarWars.com of running spoilers because they see a new alien, and even though if it's a background character. So some people want to be pure when they come to a movie. I think that's virtually impossible in this day and age of media hype. But you know, it's for some fan sites to do nothing but, you know, try to get the latest leak, or, you know, it's
It's a little too much.
Yeah, and, you know, it's a little much for me, but, you know, everybody has their personal choice, and as I said, you know, as long as nobody's doing anything illegal or trafficking in stolen merchandise or anything of that nature or soliciting, you know, someone to do something that's not ethical, you know, the fan sites are great.
What is the best and worst thing about Star Wars fans?
The best thing is their passion.
Mm-hmm.
Worst thing.
Is there a worst thing?
Star Wars fans are great.
Thank you.
That's why you said a fan
relation. How can I say there's a worst thing?
Are you planning to play the online game Star Wars Galaxies and live Star Wars with the fans?
I'm afraid I would get hooked and not have enough time for my job and everything else I have to do, so I will certainly take a look at Star Wars Galaxies, but whether I will be a member of the online community, I'm just not prepared to say.
Okay.
We have an Indian fan with us, Deepak. He'd like to know, in your opinion, what is the most single important message that Star Wars has to offer to the youth today?
I'm sorry, I'm having a little trouble hearing.
Okay. In your opinion, what is the single most important message the Star Wars has to offer to the youth of today?
I think there are a couple of messages, and I mean, one of them is to follow your dream, is to, you know, set out on the journey, even though you're not 100% sure where it's going to lead. If you don't at least try, then, you know, you're not going to get anywhere. It's also a message saying that, you know, that in the end, you know, good can and usually does triumph over evil, and that there is redemption even for the most vile of villains. And there, you know, the good thing about Star Wars is that different people can see different things in it and take different things from it. That's sort of my personal look.
Okay, now we are going to the part of the interview where we test your Lucasfilm implant. If you can't answer, or if you really don't know the answer, just say so. Okay? Steve?
And it are all around us. If you will, a yes or no question, then force in my left hand. But if I can answer you, I will.
That was my friend answering for me. But yes, okay. Go ahead.
That's good. Okay. There's a petition running on the web right now for the release of the original trilogy on DVD. Is there any real plans for that in the near future? And what about all those rumors about never released and or newly filmed scenes?
I'm aware of those petitions.
Okay.
We are aware of those petitions. And we're still so far in advance of figuring out exactly how we're going to do those DVDs that there really has been no final decision made.
Okay.
Although, I must tell you that, you know, I will acknowledge that George has said that, you know, the films as they exist now are the films.
Okay.
And so we'll see where that goes.
Okay, there is also a rumor about a 30th anniversary box set, including all the movies on DVD and extras. Anything true in that?
As I said, it's way too early to talk about any kinds of specifics beyond the fact that the classic trilogy certainly will be on DVD.
Okay.
A little question about what ends up on the cutting floor now. We know there's a gentleman at Lucasfilm named Sterling Hedgepet. He's a Lucasfilm archivist. And especially with the new technology that we have today, like the digital cameras and stuff like that, can you bring us a new hope of seeing the full Star Wars movies uncut one day?
Well, what do you mean by uncut?
I mean, with the scene with
the
Biggs.
The one finished?
Sort of.
It's pretty boring. I mean, this, look, any movie exposes hundreds of hours of film, or in the case of the way we do it now. Oh, shut up, Yoda. so to speak. hundreds of hours of film or, you know, digital media are exposed in the making of movies. Various takes are done. Scenes are written and performed that when you make a first cut of a movie or your fifth cut of the movie, no longer make sense, no longer work, you redo them. So I can't imagine anything more boring than sitting there watching 100 hours of raw footage. Now, I realize that there are some Star Wars fans out there who would say, no, we'd watch it all. But, you know, believe me, it's sort of like having to sit down and watch the Star Wars Holiday Special 24 times in a row.
Okay. That was cruel there. But, I mean, just like we've seen Peter Jackson did with The Lord of the Rings.
You're talking about deleted scenes or additional material, and
yeah, that's
again, it's too early to say exactly what we're going to do on subsequent DVD releases.
Okay.
Obviously, the medium provides a lot of abilities to do a lot of things, and we'll make those decisions as we come to them.
Okay, you speak of it earlier. First droids and Ewoks, and now there will be a Clone War cartoon with 2-3 minutes episode. Is there a plan to do a real TV series of some sort? That will maybe appeal more to the first generation of Star Wars fan?
Well, is that something that you would like to see?
Oh, yes.
Okay, well, you know, if enough fans are supportive of that, anything is possible.
Okay. I hope a lot of people will be listening also to the reruns.
Okay.
Well, I mean, you know, George Lucas did say he will never make the movie of Episode 7, 8, 9, but he never said anything about a TV series.
Okay.
Oh!
Future, always in motion, the future.
Yeah. I was waiting for that one. Okay, what big Star Wars project would you like to see in the future to continue the Star Wars franchise after 2005? Personally,
I think there are all clearly everybody wants one thing, and that's the Star Wars musical on Broadway. Being all dancing, all comedy.
That could be something.
Well, there was.
Nobody's going to think I was serious about that. So
no, but there was one actually made a couple of years back by a couple of youngers.
Yeah,
whatever.
I'm hoping and expecting that Star Wars continues in some form on some media. It's not just television that's available; it's broadband internet.
But yeah.
You know, after Episode 3, you know, broadband internet will certainly be even more powerful and widespread than it is now.
Yeah.
That's a possibility. Television is a possibility.
Mm-hmm.
Direct-to-DVD is a possibility. All of these things are possibilities. There may be new media that are developed in the next couple of years. So we have our eyes on everything.
Okay, now this one is a little bit tough, but did you read the Episode 3 script or synopsis yet, and how much were you surprised? And
no, I have not read the episode.
Not yet?
Script.
Okay.
It's a little early.
Too early. It's buzzing. Okay. Is Lucasfilm planning to do a longer movie with Episode 3 to give more depth to the final chapter of the saga?
No, I think Episode 3 will be just about the same length
same
as
plan.
Episode 2.
Okay. How is everything going with Episode 3 production, the casting, etc.?
Everything is on target. George is still working through some drafts of the script.
Okay.
Rick McCallum is in Australia. The workshops have started. Some sets are being built.
Mm-hmm.
Some costumes are being made. And most of the casting is already done because almost everything, you know, all the major characters
are returning,
are back from from Episode 2. So there's really not a whole lot of casting to be done. It's more, you know, secondary and tertiary characters that will be done in Australia close to the filming of the movie.
Okay. In the Star Wars Insider, Rick McCallum confirmed that there will be a cameo of an original trilogy character in Episode 3. Can you give us any hints?
No.
No? Okay. We'll stop there before your head explodes. Okay, now a couple of questions, non-Star Wars questions. You're a big sci-fi fan. Any favorite movies, books, TV shows?
Well, I love Lord of the Rings.
Yeah.
I don't watch much television. I get home from work at about 7 o'clock at night. I have dinner. I sit down at the computer. I go through about 60 or 70 emails.
Oh, my God.
Try to deal with some stuff for the collection. Mm-hmm. Go on to eBay to sniff around. So so I have not watched television much for the last couple of years.
Okay. What movie are you eager to see this year?
Well, probably the most eager to see the final chapter of Lord of the Rings.
Yeah. And maybe The Matrix?
You know...
No?
The Matrix has not grabbed me the way it's grabbed other people. And,
okay.
You know, I don't know. I might, or you know, I'll probably see them, but I'm just... here or there. It's not that exciting to me.
Yeah.
And it's a personal, you know, kind of thing.
Okay. Yeah. Do you follow or practice any sports?
Not these days.
Okay.
I have a question here from Jeremiah from the chat. Do you have any information on what's happening with Indiana Jones 4?
The question is, do I have any information to share on what's happening with Indiana Jones 4?
Yes.
I think everything is everything's on target. We're still waiting for a final script from Frank Darabont, and... if everyone is happy with that script, Steven and George and Harrison, then hopefully they'll go into production next year.
Okay. We'll continue with fan question from the chat.
Okay. So we got a bunch here from our Indian fan again, Deepak. Give us a second here. Studio reorganization. what would be your favorite color for a lightsaber?
Well, I'd like to have one that nobody else had. So, say the blue and the green and the red and the purple have been taken. So, how about black light?
Black light. That's cool.
I don't really have much of a choice.
A favorite.
Maybe gold.
Gold.
The gold light. A brilliant gold light.
Okay. Next.
What is your most favorite quote from the original trilogy and from episode 2?
Do or do not. There is no try.
Yeah, that I think is one of the most important.
Well, maybe the last line in the movie, because it's so portentous. Begun this Clone War has.
Yeah. Okay.
Big Yoda fan, as we can see.
Yes. Yoda and Obi-Wan, my favorite character.
Okay.
Okay. What is your favorite theme from all the Star Wars classic
music? The one that had the most emotional impact originally, and still the one that stays with me, is a scene without any words, and that's Luke
watching the twin sunset.
Yeah, leaving the house and going up to the little hill, mm-hmm. looking at the twin sunsets with that incredible John Williams music,
yeah.
and the longing in his eyes. And you just know he wants to and needs to get away and go on his own journey. And that was that scene and that music still brings chills to me.
Yes. Another question here is, which dress of Amidala did you like the best in Attack of the Clones?
Which dress? I guess there were two that were my favorite. The wedding dress, which you don't get to see a whole lot.
Yeah.
And that hot leather number that she was wearing in the fireplace scene.
Yeah.
Yeah, we heard some rumors that George designed that one.
That he what?
That he designed it, the leather one.
But, you know, George has impact on all of the costumes because he works with the artists, and then he works with the costume designer, Tricia Baker.
Yeah.
So
yeah.
He very much is involved in everything that you see on that screen, from the vehicles, to the creature designs. If you've watched some of the behind the scenes and the making of videos, you see how detailed his touch is on everything.
Yeah. And I have to admit that Tricia Biggers did a really great job with the wedding dress. It was on display at the Star Wars Celebration, and we were just amazed by
it. Tricia is an amazing... First of all, she's a wonderful person, but she's... To be able to bring the artist's interpretation... The artists don't have to worry about fabric or weight or whether it will move well, and she is able to take those ideas and translate them into the real world and does an amazing job. She got really cheated out of an Oscar for episode one, I think.
Okay. What, in your opinion, was the most powerful moment in Attack of the Clones?
The most powerful moment in Attack of the Clones? I guess I would have to go with Yoda turning from a... sort of limping little
old man
into this amazing Master Jedi when you really see what it's all about first.
Yeah,
that was so great. Another question here from Django Du from the chat. Do you have any idea when the Star Wars Episode 3 databank will be open on StarWars.com?
Stay tuned.
Oh, okay. That's probably with the same...
The same answer you answered.
No comment.
Yeah. Okay.
There'll be lots of cool stuff coming up over the next few years, but, you know, something in the near future that will be very interesting.
Okay. Jeremiah would like to know if George would like to make a little Siri a little bit like Stargate SG-1.
I don't know what George's personal plans are beyond... Episode 3, except he has talked about doing some television, and he's talked about doing some more personal, small movies, so we'll just have to see what he wants to do.
Okay.
Okay, Kit Fisto, will you be going on set in Sydney when they start filming?
I will probably be down there for a little while. For the first two movies, we've brought in the editors of the licensed international fan magazines to give them a little peek behind the scenes for a couple of days of filming, and you know, it's my job. I've got to be there. I mean, it's a rough job, but somebody's got to do it. probably sometime during the filming, towards the latter part of the filming.
Okay.
One last question from Arcus from the... two last questions, actually. You know, there's the Disney franchise, and there's a Disneyland in Florida, in Orlando. There's also one in Paris, and one of the Paris fans was wondering why there are not so much weekend Star Wars in Disneyland Paris.
Why there's no Star Wars weekends?
Yeah, because the last time they ran it, there were 112 in costume.
I don't know the answer to that. I know Star Wars weekends has been very successful in Florida, and... it would be it'd be fun to have it in Paris and in California and in Tokyo. So let's see how Star Wars Weekends does this year in Orlando from mid-May to mid-June, and maybe Disney will get the idea that they should expand it.
Okay. Blizzard from the chat wanted to know, what were the last newest addition to your collection?
Every day.
Oh my God!
So, jeez.
Do you have somebody who works for you just for your collection?
Not currently. I have had in the past. I've had a full-time curator. Two different ones. First, Josh Ling for about 5 years, and then Les David for 9 months.
Okay.
And right now, I don't really have a curator as such. I have a good friend, Lisa Wistock, who comes and helps me out a couple of days a week, and so, you know, yeah, I've got a lot of support here.
Well, you know, I make really good coffee, and I don't take much space. So.
I have to pat you down after you leave the museum every evening.
Okay, anything Lucasfilm would like to promote for the fans?
Well, as I said, I appreciate this opportunity. We're going to be doing some major Star Wars activities at this year's Comic-Con International in July in San Diego. We're going to be doing our Star Wars Fan Film Awards ceremony at Comic-Con this year and give out trophies, show all the great fan films that have been submitted for the contest this year. And Friday of Comic-Con is always Star Wars Day, and we're going to have lots of activities, more than ever before, with Star Wars. There'll be Star Wars celebrities, lots of very interesting things, and I'll be giving a presentation there. Also doing a couple of other conventions in Mexico City, Star Wars Collectors Convention, the first authorized collectors convention in Mexico City in July.
Okay.
So lots of cool stuff coming up, but everything you need to know about Star Wars and all of the convention activities and everything else you can read about at StarWars.com.
Okay. Now it's time for our little promo line, so if you got the line ready.
Okay. Oh, this is tough, guys.
Oh, give it a try in English and in French if you want.
Oh, okay. Hi, this is Steve Sansweet, and you're listening to Star Wars Live.
That's perfect.
Bonjour. This is Steve Sansweet, and you're listening to Star Wars En Direct.
That's perfect.
That's perfect.
Well, thanks, Steve.
A lot of fun, guys.
Stay on the line a bit. We'll talk to you off the air.
Okay.
We're going to go on a short break now. Right before we do that, I'd just like to mention that Steve earlier mentioned San Diego Comic-Con. I myself am going to be doing some conference at Toronto Trek this year. Yes, it has Trek in it, but it's also a lot of Star Wars fans going there. We'll be posting some more details on both FanForce and Citlan majorly. So if any of you guys from the close area from Quebec wants to come to Toronto Trek, I highly suggest it's a really interesting convention.
Okay, and for all those English listeners, if you would like us to do a regular all-English show, send your requests and comments to swlive@hotmail.com. It's swlive@hotmail.com.
Come on, encourage the Bob show.
Thanks again, Steve.
You're welcome.
Okay, and we'll go on a little break. And et pour tous ceux qui parlent en français, immédiatement après la pause musicale, nous allons revenir et traduire tout ce que M. Sansweet a dit, ou résumer tout ce qu'il a dit en détail. Donc, on revient immédiatement après la pause.
Star Wars en direct vous revient après cette pause musicale.
Lady, they're always complaining. John Williams, author of Destiny's Way. You are listening to Radio Sith Clan.
Et on est de retour.
Re bonjour.
Quelle belle entrevue. Oui, je t'entends.
Ouais, non, mais moi aussi je t'entends.
Ok.
Pas de problème.
Bon, on va essayer de traduire tout ça. J'espère que vous avez aimé l'interview. C'était vraiment plaisant.
Pour nous, en tout cas. Toujours plaisant.
Donc, on a commencé par lui demander une petite histoire de sa carrière.
Exact.
Donc, il a commencé au Philadelphia Inquirer, qui était sa ville natale, journaliste. C'est ça qu'il voulait toujours faire dans sa vie, qu'il disait. Et puis, ensuite...
Ben, déjà à l'université, il avait été reconnu comme étant l'un des meilleurs journalistes.
Les meilleurs étudiants journalistes, oui. Ensuite, il a été au Wall Street Journal...
Exact.
À New York. Pour ensuite aller 2 ans à Montréal, qui était notre surprise totalement.
Et oui, il a couvert tout le Canada.
Ça, il a habité 2 ans à Montréal, donc il connaît nos froids canons ici, là,
oui.
Etc. Et puis il a couvert, c'est ça, le Canada pendant 2 ans. Et puis après, il a demandé transfert en Californie pour le Wall Street Journal encore, où est-ce qu'il est resté quelques années encore. Et puis... Il y a eu une opportunité quand George Lucas a décidé de faire les special editions et puis la prélogie de devenir directeur du marketing ou des relations de fans. Donc il a accepté.
Il travaillait déjà sur certains livres, fait qu'il est allé travailler là pour juste une petite période de temps, mais finalement il y a d'autres postes qui sont ouverts. Le directeur du marketing, entre autres, qui a dû quitter, puis que c'est Steve qui a pris sa place.
Exactement. Ensuite de ça, il a demandé, il y a beaucoup de fans qui pensent qu'il y a le plus bel job au monde,
ouais, c'est
le plus beau job au monde, et puis on lui a demandé comment il y a eu cet emploi-là. Il a mentionné qu'il avait déjà rencontré Josh quand il l'avait interviewé, quand il était au Wall Street Journal, et puis j'imagine le contexte s'est fait là, puis ensuite il a travaillé justement les livres Star Wars, et puis en étant sur place, ils l'ont choisi.
Exact.
Être à la bonne place au bon moment, comme on dit.
Eh oui. Puis c'est quand même une job qui est dure à avoir, sa job, parce que si moi je voudrais sa job, il faudrait que je fasse un duel au sabre laser, probablement, avec lui avant. pour le redire dans ses mots, il faut qu'elle achète knock him off first.
On lui a demandé en blague si avoir une barbe c'était un prérequis pour travailler chez Lucasfilm. Il a dit non, en fait il s'est fait pousser la barbe depuis qu'il travaillait au Wall Street Journal parce qu'il avait l'air tellement jeune que les personnes importantes qu'il interviewait rappelaient son patron pour savoir comment ça se fait qu'il y avait une personne aussi jeune qui l'interviewait.
Un gars de
17 ans. C'est ça. Ensuite,
il disait aussi que ça faisait même plus longtemps que George qui avait sa barbe,
c'est ça. Quelle est la partie la moins plaisante de son emploi? Il n'a pas trouvé. Peut-être partager son bureau, comme tu disais, mais...
C'est ça, mais maintenant, c'est ça. Il a eu à partager son bureau avec Francis Lalumière et notre autre ami, que j'oublie le nom, dont le nom m'échappe, qui nous a aidé pour IMAX.
OK.
Que maintenant, c'est plus un problème, parce qu'il y a un nouveau ranch Lucasfilm,
comme un autre réel, on dirait, un autre bâtiment.
C'est deux miles plus bas sur la route, fait que... C'est sûr que ça leur tente de rencontrer Steve. Arrêtez-vous pas au premier pour rencontrer George. Là, continue tout droit, puis 2 miles plus loin, tournez à droite.
Exactement. Ensuite, on a commencé les questions sur le collection, sur les collectionneurs. Bon, il y a la plus grosse collection au monde, le privé, puis on a demandé s'il comptait le nombre d'items qu'il y avait, ou s'il savait le nombre, puis il a dit qu'il a déjà eu des archives par rapport à ça, un inventaire. Il a fait deux inventaires, mais à un moment donné, il a abandonné, tout simplement.
Moi-même...
Je veux dire, il était rendu à 100 000, 200 000 items, là, c'est rendu épouvantable.
C'est
ça. OK. Depuis combien de temps qu'il collectionne? Bon, c'est 76, les items Star Wars. Son premier item, c'était un livrelier promotionnel pour les salles de cinéma, qui a ramassé dans une poubelle, une des personnes avait ramassé. Et puis, il y avait aussi le roman de Star Wars qui était sorti fin 76. Fin 1976.
Yep.
Ensuite,
pour revenir, le nom c'est Paul Hens. Merci à
Paul Hens. Okay.
Ping. Alors.
Ok. La première pièce de collection qu'il a eu, c'était le petit livret là, qui mentionnait le petit livret promotionnel. Est-ce qu'il
Y a une pièce en particulier qu'il préfère dans
préfère, sa collection. Puis il dit c'est toujours la plus récente. Mais en fait, il aime vraiment toute sa collection. Et puis des fois, il va juste fouiller pour trouver un item qui se rappelait plus qu'il y avait ça.
Ben oui.
Un item qui se souvenait plus qu'il y avait encore la figurine ou autre chose. Ensuite, on a eu la question est-ce qu'il a les figurines classiques avec les cartes Revenge of the Jedi qui était le titre qui était supposé à être à la place de Return of the Jedi, mais c'était trop méchant. C'était trop pas light side, c'était pas côté clair.
C'était aussi pour déjouer les pirates qui voulaient avoir des copies
des
de
t-shirts,
Star Wars,
c'est ça. Puis il a répondu qu'il y a toutes les figurines sur carte. Il y a 50 à peu près.
Chose comme ça.
Une cinquantaine de figurines avec les cartes Revenge of the Jedi, ils les ont probablement tous. Ensuite, est-ce que...
Et son email.
en travaillant pour Lucasfilm, est-ce que tu as des avantages pour obtenir certaines pièces, comme des props, des accessoires, des modèles réduits, etc., du film? Puis il était hésitant là-dessus, dans le sens qu'il collectionne pas vraiment ça. Là. Il y en a dans le passé, avant qu'il travaille sur Lucasfilm, qu'il a gardé, mais il se sent mal à l'aise, qu'il disait maintenant quand il... Il va dans la salle d'archives ou qu'il y a des nouveaux...
Puis on le comprend un peu quand on regarde les événements de l'année dernière où, justement, un de leurs employés a été renvoyé parce qu'il possédait certaines choses qu'il avait acquises totalement légalement, mais bon.
On continue.
Que voulez-vous?
Après, on lui a demandé est-ce qu'il y aurait une autre collection sur l'univers étendu des figurines dans un futur rapproché. Et s'il y aurait des items du Nouvel Ordre Jedi, il a dit que Hasbro regardait toujours ça. Et puis, qu'ils ont renouvelé jusqu'en 2018 Hasbro. Donc, il y a des fortes chances qu'il y ait des figurines du Nouvel Ordre Jedi et de l'univers étendu qui vont sortir. D'ailleurs, il a mentionné qu'il allait avoir cet automne des figurines de la série Clone Wars. Donc, ça va commencer immédiatement là dans l'univers étendu. Une autre question.
Des figurines très spécifiques en particulier.
Oui, c'est ça. Ben non, mais t'as Anakin avec un espèce de casque, une visière. T'as Durga, qui est une espèce de gros semi-Terminator. Là,
le Mandalorian Killer.
Ouais, c'est ça. OK, ensuite, une autre question. On lui a demandé qu'il y avait un gros problème en Europe, spécialement en France, avec la distribution des produits dérivés de Star Wars. Avec des vagues de jouets incomplètes puis qui sont... libéré au compte-gouttes. On lui a demandé s'il avait de l'influence sur la distribution internationale de ces produits dérivés-là et s'il pouvait améliorer la situation par rapport à maintenant. Il a tout simplement répondu que Hasbro est content d'envoyer. Il veut envoyer des figurines partout dans le monde, etc., aux dates prévues, etc., mais c'est les marchands. Les marchands qui ils voient qu'il n'y a pas une demande assez grande pour commander les figurines. Donc, il vous a mentionné simplement que si vous voulez des figurines, ben harcelez les marchands, harcelez les vendeurs, puis c'est eux autres, en voyant la demande, qui vont commander les figurines, puis qui vont pouvoir les avoir plus régulièrement. Ensuite, on a demandé si il y aurait une suite au livre que M. Sensuit avait écrit sur c'était comme une archive de figurines Star Wars. On a dit s'il allait avoir une suite ou s'il y a un autre guide sur les jouets qui allait sortir sous peu. Il a dit il n'y a rien de prévu pour l'instant. Carrément. Il n'y a pas le temps pour l'écrire.
Non, c'est ça. Puis, à comparer à ce que c'était dans le temps aussi, maintenant, il y a beaucoup plus de choses sur lesquelles écrire, fait que ça rend les choses encore plus difficiles.
Mm-hmm.
Moi, j'ai continué avec ma question par rapport à un livre concernant toutes les variations, toutes les figurines qui sortiraient, les choses comme ça. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup de manuscrits qui avaient été développés par rapport à ça, mais c'est très difficile à publier en tant que tel. Je lui ai demandé s'il y avait moyen qu'on voit peut-être ça apparaître sur StarWars.com. Lui, il nous a dit que le cargo bay de StarWars.com, il était sur le point d'avoir des changements quand même assez majeurs, puis qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent sur StarWars.com, puis très excitantes aussi, qu'il va falloir
surveiller.
Il va falloir aller vérifier ça tous les jours.
Ok, on lui a demandé aussi l'avenir des figurines de la trilogie, de la prélogie dans le fond. Et puis, il a tout simplement répondu un peu avec les figurines de Clone Wars. Puis, il a mentionné, c'est à cette question-là qu'il a mentionné qu'il avait renouvelé jusqu'en 2018. Donc, c'était certain que il y aurait beaucoup de figurines qui sortiraient d'ici ce temps-là. Sinon, il n'aurait pas renouvelé
le contrat.
Exactement.
Il y a beaucoup de figurines qui veulent sortir, des figurines qui sont pas encore sorties, des formats de figurines qui veulent repenser aussi. Mm-hmm. Probablement des choses comme un Yak Face en 12 pouces. Là,
c'est ça. Il y a aussi un internaute qui demandait d'avoir une figurine bien précise, qui est la danseuse obèse dans le palais de Jabba. Yarner Dahl Gargan. Et puis, il a dit, ben, Hasbro, ils sont très à l'écoute des fans, il y a des sondages, etc. Il s'agit juste de brasser un peu la communauté pour que cette figurine soit dans les choix du mois ou les choix... Les fan choice des figurines. Ensuite, on a changé de catégorie de question qui était les films Star Wars et l'univers étendu. Bon, il a parlé du marketing de l'épisode 1 qui était extravagant, qui était beaucoup trop gros. Et puis, s'il avait appris par rapport à cette expérience-là, et puis comment qu'il l'avait appliqué à l'épisode 2 et probablement l'épisode 3. Bon, il a mentionné que aussitôt que le trailer, la bande-annonce teaser.
Oui, c'est ça, le teaser était sorti en novembre 1998.
Exactement. À partir de ce moment-là, ça a été épouvantable, l'attente des fans par rapport à ça. Puis,
même les médias sont garochés sur toutes les informations qu'ils pouvaient trouver. Mm-hmm. Moi, une chose qui m'a énormément marqué de la différence...
Access Hollywood.
Access Hollywood, là, sincèrement, épisode 1, il y avait le countdown des 100 derniers jours avant Star Wars. Puis on parle de 3 mois avant, là. Et puis,
à chaque jour, il y avait une nouvelle.
À chaque jour, il y avait une nouvelle. Puis Access Hollywood, pour l'épisode 2, on a entendu parler quoi, 4-5 fois?
Moi. Ouais.
C'est vraiment... Ça l'a baissé, c'était incroyable.
C'est ça.
Mais c'était une différente approche qu'il prenait pour l'épisode 2. Je lui ai pas posé la question, mais tant qu'à moi, c'est une approche qui était beaucoup plus visée aux internautes, aux fans d'Internet.
Aux fans et non à...
Aux médias en tant que tels, c'est ça. Et puis...
Puis il a dit qu'il a appris aussi, puis que l'épisode 3 va être légèrement différent encore.
Ils vont adapter pour l'épisode 3.
Exactement. On a mentionné que les fans internationaux étaient contents que l'attaque des clones sortait une sortie mondiale, contrairement aux sorties saisonnières des différents pays. Si la pétition qui était sur Internet a joué dans la décision... Il a dit oui, elle a joué beaucoup.
Mais c'était pas seulement à cause des fans.
C'est ça, c'est pas seulement à cause des fans. Et puis George, c'était lui qui disait le OK ou pas par rapport à ça.
C'était aussi une décision surtout de business.
Exactement.
The business.
On lui a demandé aussi c'est quoi la difficulté de coordonner toute une sortie mondiale. Là, il a dit c'est vraiment avec des bons distributeurs, etc. Pousser les distributeurs à faire différent de leurs habitudes dans les autres pays.
Ça l'a occasionné certaines petites bosses un petit peu partout dans le monde, même au Québec.
Mm-hmm.
Mais
des frictions, etc.
Entre autres.
Ensuite, Dernier novembre, bon, Attack of the Clones sortait sur les écrans IMAX. Et puis, on lui a demandé, on lui a dit que, évidemment, c'était la première fois qu'il se servait des associations de fans pour promouvoir le film en tant que tel, en créant des événements et en supportant des événements avec Lucasfilm et les associations de fans, qui était une action non habituelle de Lucasfilm si on regarde les années précédentes. Et puis, qu'est-ce qui a fait, quelle décision, pourquoi ils ont soudainement changé, qu'ils ont décidé de promouvoir les activités de fans, et puis est-ce qu'on peut s'attendre à ça pour l'épisode 3? Bon, il mentionnait déjà que dans le temps, il n'y avait pas beaucoup d'associations de fans, donc ça s'appliquait pas nécessairement.
C'était énormément différent.
C'était énormément différent. Et puis, de plus en plus, il y a des groupes différents qui se sont faits.
Depuis les line-up de 1999, on a vu beaucoup de fan clubs régionaux se créer. Il y a les 501st qui sont développés encore plus. Rebel Legion, Rebel Alliance, apparemment aussi un autre groupe, qui ont grossi tout ça. Lui, ce qu'il prévoit, c'est que les relations entre Lucasfilm et les fans...
Ça va continuer à grandir.
Ça devient plus lumineux pour dire ce qu'il disait. Ça se renforce de mieux en mieux. Je me souviens qu'en mai dernier, je lui avais posé une question similaire pendant que j'étais à la célébration puis que je parlais avec lui. On lui avait demandé, y a-t-il moyen que les conventions soient supportées par Lucasfilm, des choses comme ça. Il disait qu'ils veulent garder une distance entre les événements de fans et Lucasfilm, parce que quand ça devient officiel, ben ça rend les choses encore plus compliquées, tout ça.
Donc, légalement, etc.
On est content d'avoir du feedback comme ça, puis de savoir que, qui sait, peut-être pour l'épisode 3, il va y avoir quelque chose de spécial.
Puis il nous a lancé une petite blague, que comment ça se fait qu'on était au courant de ça, etc. C'est parce qu'on a été représenté, ils nous avaient choisi pour... le Québec. Ok, ensuite...
et Dieu sait qu'ils s'en souviennent encore.
ensuite, bon, les Européens, on a mentionné aussi, les Européens étaient très déçus, étaient très contents plutôt d'une sortie mondiale, mais étaient déçus que IMAX n'ait pas paru outre-mer. Et puis, on lui a demandé s'il y avait des plans pour ça, s'il y a des raisons pour lesquelles ça s'était pas rendu en Europe. Et puis, il a dit, bon, il y a déjà le côté édition du film, qu'il fallait tout changer, la trame sonore, adapter chaque langage, couper. Et puis, il y a aussi tout le côté technique, qui disait que les appareils normaux d'IMAX, ils peuvent pas soutenir un film aussi long.
C'est ça.
Et puis, il fallait beaucoup de modifications. Bon, ils ont eu l'expérience de l'Amérique. Il a quand même pas dit non. Ça irait jamais en Europe, mais pour l'instant, il n'y avait pas de plan pour ça. Puis j'ai l'impression que d'ici à ce que l'épisode 3 sorte, je doute, mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais. C'est « Nothing is impossible. Anything is possible, but right now not under determination. »
Exactement. On lui a demandé s'il était déçu d'avoir perdu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux qu'a gagné les deux tours.
Qu'a gagné les deux tours en effets spéciaux.
En effets spéciaux. Il a dit oui, beaucoup, parce que on a fait un travail extraordinaire. On a vraiment poussé les limites des effets spéciaux.
Mais il était content que ce soit quand même d'anciens gars d'ILM.
D'ILM, qui était rendu chez Weta, qui avait fait les effets. Donc, c'est de la famille. C'est de la famille. Ensuite, j'ai demandé que... qu'est-ce qu'il pensait de l'univers étendu, et puis le fait que c'est pas écrit par George Lucas, puis que certains fans lisent pas l'univers étendu, etc., etc. Et puis comment qu'il compare à l'histoire des films. Bon, il a dit l'histoire des films, c'est canon, on y touche pas. Et puis il a dit, bon, le problème avec l'univers étendu, c'est que c'est pas le fait que les fans ne le lisent pas, c'est qu'en général, je veux dire, la lecture... c'est plus comme avant, il y a beaucoup moins de lecteurs, tout simplement. Il dit qu'il y a beaucoup trop de TV, de jeux vidéo, fait que toutes les images sont déjà toutes vraiment une société image présentement, et puis tout ce qui est imagination prend le côté un peu, la lecture prend le côté, tout, tout change. Et puis, il dit c'est surtout ça qui fait que l'univers étendu est peut-être pas aussi avancé qu'il pourrait l'être si la lecture serait aussi aurait resté au même niveau qu'avant, dans le fond. Ensuite, il a parlé des erreurs de continuité dans l'univers étendu. Et puis, on a dit, oui, on sait que George autorise les storylines des livres, des comic books, et puis toutes sortes d'autres choses. Et puis, est-ce qu'il tient en considération un petit peu, au moins, toutes ces choses-là qui ont été écrites par les autres auteurs quand il écrit, puis il a dit carrément non.
Pour le citer, nope.
Nope.
Nope. What he does is his own. Yeah. Ce que George fait, c'est à lui. C'est
exactement.
Après ça, on a posé des questions de ton frère Raven.
Ok, oui.
Alors, on lui avait demandé, d'après toi, est-ce que c'est mieux de regarder les films dans l'ordre numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 4, 5, 6, 1, 2, 3? Steve nous a répondu que c'est un choix très personnel, en fait, mais que quand les 6 films vont être complétés, quand Star Wars épisode 3 va être complété, ça va être le fun de les écouter dans l'ordre
chronologique,
dans l'ordre numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6.
C'est ça, mais il dit il y a tellement de monde qui connaissent les films Star Wars que
on peut les écouter, dans
n'importe quel ordre, puis ça va être le fun. C'est certain que ceux qui connaissent rien de Star Wars puis qui commencent 1, 2, 3, 4, 5, 6 vont peut-être perdre quelques surprises, là, on sait pas.
C'est ça.
T'sais, mais en tout cas. Ensuite, tu avais une autre question, Raven, je crois.
J'en ai deux autres. Est-ce qu'on peut espérer voir une Ultimate Edition de Attack of the Clones?
On parle du DVD double. Il y en a un de la Menace Fantôme, le DVD bleu avec la
CD.
Le CD. J'ai dit DVD?
Ouais.
Okay. Le CD. Le CD musical avec la couverture bleue avec
la
figure de Darth Maul. Et puis, il demandait s'il allait en avoir un pour l'épisode 2.
Puis, lui, ce qu'il a répondu, c'est qu'il a demandé. Il a déjà demandé à Lucasfilm, mais il n'y a personne qui peut lui donner une réponse
encore,
tant qu'à ça.
C'est
information.
Exactement.
Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des radiodramas pour les prequels, pour la prélogie?
Réponse très intéressante.
Il va falloir aller visiter StarWars.com.
StarWars.com, parce qu'il répond aux questions du Conseil Jedi, du Jedi Council. Ils reçoivent des questions et puis ils sont répondus au compte-gouttes, mais il a répondu à une question par rapport à ça. À voir s'il allait avoir un radiodrama pour l'épisode 1 et 2. Donc, on va voir quand ça va être affiché. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être attendre que l'épisode 3 soit fini.
Peut-être vu qu'on vient l'interviewer, qu'on a mentionné ça.
Il me semble voir toutes les personnes de Lucasfilm qui vont l'écouter la semaine prochaine.
Je pense pas, hein. Hey, Steve, you were on Radio Sinclair.
Ok, ensuite, on a eu un petit break pour nos commanditaires. Ensuite, on lui a demandé, pour les Français, justement, on a parlé, on avait reçu quelques questions par rapport à une convention possible à Paris, parce qu'il avait été visiter Paris justement pour faire faire de l'éclairage, comment on dit ça, du scouting, mais en
c'est
français.
C'est ça, c'est
l'éclairage.
Entre guillemets,
en tout cas, pour faire...
Éclaireur,
pour arpenter.
Au tabarouette,
le terme. Hein. Pour arpenter les possibilités.
Et le dictionnaire de lunettes.
De son cerveau. De faire une convention à Paris, etc., en même temps qu'il allait promouvoir le DVD à la convention d'Arkham. Et puis, il y a certains fans qui nous avaient demandé si tu verrais qu'il y avait une rumeur que Célébration 3 allait être en Europe. En fait, c'était pas la Célébration 3, c'est une possibilité d'une grosse convention, mais pas la Célébration 3. Et puis, il a dit que présentement, il n'y a pas assez... c'est considéré, mais il y a beaucoup de réflexions à faire encore avant d'en faire une à Paris. C'est ça qu'il a dit, carrément.
On sait que ce qu'il nous a dit aussi, c'est que la Célébration 3 va avoir lieu aux États-Unis.
Point. Exactement. Ensuite, on lui a demandé s'il y avait les candidats possibles, des villes candidates possibles. Il n'a rien dit, ça va être bientôt annoncé.
Mais, probablement l'été prochain.
C'est ça. Donc, on le saura pas d'ici ce temps-là.
Ce qu'ils veulent, par contre, c'est ce qu'ils cherchaient, évidemment, c'est une ville assez centrale pour pouvoir... pour que tous les fans puissent au moins prendre leur...
Y aller en auto.
C'est ça, y aller en auto.
C'est ça. Et puis, il a dit la grosse difficulté, c'est que les centres de convention sont réservés 2-3 ans à l'avance, même plus. Donc, la ville peut être parfaite, mais le centre de convention sera pas libre pour les dates qu'ils veulent faire. J'imagine qu'ils vont le faire au mois de mai, mais j'espère surtout qu'ils le feront pas en même temps que la vente de billets, comme la dernière fois. Ça, c'est la pire affaire. Ils vont peut-être y penser, là, ce coup-là, j'espère.
Ouais. Il y a aussi le fait que si c'est pas les conventions qui sont le centre de convention qui est pris, le Indy 500 commençait nous autres.
Ouais, ça va être en considération pour cette année.
Ça. C'est ça là, dans 2005. Ouais. Mais toutes les chambres d'hôtel là, ça a été dur à booker en tabarouette.
Ouais, j'imagine. L'Indy 500, c'est comme la plus grosse course là.
C'est ça. Mais je tiens à revenir. C'est faisable en bas de $1000 d'aller à Indianapolis d'avoir un excellent week-end.
Ensuite. Quand est-ce que ça allait être annoncé, puis il a dit cet été?
Cet été. Okay. Sur StarWars.com, dans l'une des dernières questions qui a répondu au Jedi Council.
OK. Ses souvenirs de Célébration 2, Sébastien a dit les siens, mais je veux dire, c'était calqué un peu sur il n'a dit d'autres.
C'est ça, il y avait le Star Wars en 30 minutes, qui est...
C'est un film remonté?
Non, pas, c'est une pièce de théâtre faite par des étudiants, c'était vraiment très drôle. J'ai juste eu la chance de voir 4-5 minutes de la pièce en tant que telle. J'ai pas pu.
Il y avait trop de monde.
Non, il y avait trop de choses à faire. Okay. Mais il y avait beaucoup de monde aussi. Une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un petit enfant handicapé parce que là-bas, Lays avait un stand qui permettait aux enfants
De dessiner.
De suivre des cours de Jedi.
Okay, cours de sable laser.
Des cours de sable laser. C'était vraiment, vraiment, vraiment drôle, vraiment le fun. Et puis, à un moment donné, dans le show, il y avait Darth Vader qui sortait, il se battait contre le meilleur des enfants. Et puis, évidemment, Darth Vader perdait. Là, fait que ça rendait le kid heureux, tout ça.
Puis il avait fait un tour de victoire autour de la salle qui disait.
C'est ça, le petit enfant handicapé, il a tout fait les étapes, il a gagné. C'était vraiment super, super cute, super content. C'est vraiment une mémoire le fun à conserver. Ouais.
Ensuite, il m'a demandé est-ce qu'elle allait avoir d'autres célébrations, d'autres événements célébrations après 2005. Il a dit. On va voir après le troisième. Si les fans sont là, il y a des bonnes chances.
Il a dit sure, si les fans sont d'accord. Fait que là, je lui ai demandé est-ce que 27 000 fans c'est suffisant.
Ouais.
Ouais.
Ensuite, qu'est-ce qu'il pense de l'impact des grands sites, de l'impact sur la franchise Star Wars, des sites de fans comme TheForce.net, JediNet.com et Star Wars avec un Z.com. Et puis, comment ils considéraient tous les sites plus petits et multilingues internationaux. Et puis, il a dit, c'est très bien d'avoir, pas un port d'attache, mais d'avoir un portail autre
que StarWars.com.
C'est à voir qu'il y a des fans qui aiment tellement ça, qui s'occupent de garder l'ambiance, dans le fond, si on peut dire.
De conserver le hype.
Ouais. Ensuite, c'est quoi son opinion sur les spoilers puis les fuites d'informations qui se rendent sur les écrans d'ordinateurs des fans? Il disait qu'il aimait pas ça, tu le voyais juste dans sa voix qu'il aimait pas ça là.
Ouais.
Il disait il y a beaucoup de choses qui sortent en rumeur, puis c'est complètement de la merde.
Si vous croyez tout ce que vous voyez, si vous êtes un vrai fan, puis que vous croyez tout ce que vous voyez sur l'internet, vous êtes vraiment dans un monde fantastique.
C'est ça, exactement. Il a dit qu'il y a beaucoup d'informations qui n'est pas vraie, etc., etc. Tu vois qu'il parlait pour Lucasfilm, là, parce que. Il y a des fuites, etc., qui sont vraies, mais il ne dira jamais qu'ils pouvaient être vraies.
You cannot leak from Lucasfilm.
C'est ça. Ensuite.
Seal proof.
Ensuite de ça.
Les meilleures puis les pires choses à propos des fans de Star Wars.
La meilleure chose,
la passion. Passion.
Point. Il n'y a rien dit d'autre. La pire chose, il n'y a rien trouvé.
Il n'y a rien trouvé, évidemment, on s'entend. Puis c'est pour ça qu'il est le fan, la tête des relations des fans.
Exactement. Ensuite, on lui a demandé s'il était. S'il pensait jouer au jeu Star Wars Galaxies, le jeu. En ligne multijoueur, massivement multijoueur, qui a dit il va sûrement l'essayer, mais pas au point de, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, etc. Puis il dit je pense que j'accrocherai trop facilement.
Ouais.
Donc il dit il va probablement l'essayer, mais sans plus. Ensuite, là on était dans les questions qui testaient son implant de Lucasfilm, donc il a été assez strict dans les réponses, et puis il répondait vraiment qu'est-ce qu'il avait le droit de répondre. Là.
Pas plus.
C'est-à-dire, son implant doit être gigantesque, donc... on lui a demandé... bon, pour la trilogie en DVD, trilogie classique. Puis s'il y aurait des... Bon, si la rumeur aussi qu'il y aurait des nouvelles scènes ou des... des nouvelles scènes filmées ou des scènes jamais libérées, si on peut dire, comme never released, des scènes coupées, des scènes coupées dans le fond.
Et puis
il a dit, oui, George est très au courant de la pétition qui est sur Internet présentement, puis considère beaucoup les DVD. Cependant, pour ce qui est des films, il disait que les films tels qu'ils sont, ils sont finales. Donc, il va peut-être changer d'idée ou ils veulent pas le dire. Mais c'est comme ça pour l'instant. Donc, oui, il va y avoir des DVD pour la trilogie originale. Puis j'imagine que la pétition va peut-être aider à accélérer le processus. Parce qu'on voit qu'il mentionnait souvent les pétitions, là, la sortie mondiale, Hasbro, il regarde beaucoup les pétitions. Là, il vient de mentionner qu'il regarde beaucoup la pétition pour ça, etc. Donc, faites des pétitions!
Ça marche. Mais quand même, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre de vue ici. On est tous des Star Wars fans, on s'entend tous là-dessus. Il y a du meilleur budget au monde au pire budget au monde. Mm-hmm. Danny à moi.
Ben là, je suis pas un si gros budget que ça quand même.
Et puis, je veux dire, si on pousse une pétition présentement pour avoir une trilogie originale, c'est sûr qu'on va l'acheter. Mais dans 2 ans, 3 ans, ils vont en ressortir une autre. Mm-hmm. On va encore l'acheter. Puis il y en a encore qui vont chialer. Ah, oh, ouais, mais ils ont sorti ça. Mais c'est vous autres qui l'avez demandé. C'est des choses auxquelles il faut peut-être penser là, avant de...
Exactement.
De courir et faire des pétitions sur petitiononline.com.
Puis il a répondu la même chose par rapport au super coffret méga grand.
Le Super Califragilisticexpialidocious.
Exactement. Du gargantuiste coffret du 30e anniversaire. Il a tout simplement dit que c'était trop loin pour spéculer. C'est 2007, c'est le 30e anniversaire, donc c'est encore trop loin. Ensuite, on lui a demandé, tu as parlé des scènes coupées, toi?
Mm-hmm.
Je me souviens pas qu'est-ce qu'il avait dit.
Non, c'est ça. Ben lui, ce qu'il nous disait, c'était qu'il pouvait pas dire présentement qu'est-ce qu'il était pour dire sur les prochaines sorties de films en DVD ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on va en avoir, peut-être qu'on n'en aura pas des
Sébastien,
coupées,
c'est ça. Sébastien demandait si on allait voir, un peu comme Le Seigneur des Anneaux, les scènes réinsérées, les scènes coupées réinsérées dans le film.
Ben exact.
C'est ça qu'il demandait, puis il a dit, il ne peut pas le dire vraiment. Là. Bon. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Probablement qu'il ne dirait pas, c'est ça. Et puis, il a aussi parlé, au début, il pensait qu'on parlait de tout ce qui avait été filmé au complet.
Ouais.
Au début, fait que c'est complètement ridicule. Oui, il y a des fans
assez,
oui, il y a des fans assez maniaques pour vouloir voir toutes les centimètres de pellicule qui ont été filmés, là. Mais c'est complètement ridicule, on fera jamais ça.
Ah, si j'avais un plus grand appartement.
Bon, ensuite, on y a parlé, bon, qu'il y avait eu les dessins animés Droids, Ewok, et puis maintenant qu'il allait avoir le dessin animé Clone Wars. Avec des épisodes de 2 minutes, très décevant.
Oui. Ça, c'est une pétition à faire.
Ouais, on lui a demandé s'il y avait des plans pour faire une vraie télésérie Star Wars, etc., qui serait plus plaisante peut-être pour la première génération de Star Wars comme moi, etc., les vieux de la vieille, si on peut dire, là, t'sais, avec des vrais acteurs, etc. Puis il a dit, ben. Si vous voulez ça, ben demandez-le.
Il nous a comme renvoyé la question en disant est-ce que ça vous tenterait d'en voir des séries comme ça?
On a dit
oui.
J'ai dit of course. Bien sûr. T'sais, c'est pas une question. Je pense qu'il n'y a pas un fan qui aimerait pas ça ou une série comme Star Wars du même genre que Star Trek ou peu importe.
Moi, en guillemets.
Non, mais je veux dire.
Star Wars,
mais
Star Trek, je veux dire
une émission hebdomadaire. Là,
ouais, on s'entend.
Dans le sens.
C'est sûr. Puis ce que j'ai rétorqué d'ailleurs à Steve, c'est. George, il a dit qu'il ferait pas 7, 8, 9 en film, mais il a jamais rien dit par rapport à pas les faire en série télé.
Exactement. Donc, on voit qu'ils sont ouverts encore à ça.
C'est ça.
De toute façon, Hasbro aura une vie jusqu'en 2018. Il y a sûrement quelque chose dans la franchise qui va se passer d'ici là, autre que la fin des films. Là. Ensuite, Bon, j'ai demandé s'il avait lu le, il était très rapide pour les questions épisode 3, c'est hallucinant. y avait-tu lu le script de l'épisode 3 jusqu'à présent? Non. Peut-être que oui. Moi, d'après moi, oui, mais il a dit non. Même d'ailleurs, il a dit que George Lucas finissait encore des drafts, puis c'est supposé encore être remis depuis le 21 février, je pense, le script.
Ouais. Il était encore en train de faire des brouillons là, par rapport à certaines scènes.
Je pense que c'est l'implant qui parlait cette fois-ci. Ensuite, est-ce que Lucasfilm prévoit faire un... J'ai demandé, est-ce que Lucasfilm prévoit faire un film plus long pour aller plus en profondeur dans le dernier chapitre de la saga? J'ai pas le temps de finir ma question, mais je voulais y montrer la comparaison que Lord, le Seigneur des Anneaux est la preuve vivante qu'un film long peut être aussi bon en divertissement puis amener les personnes en salle, exactement, ça changerait. Il a dit non, ça devrait être autour de la même longueur qu'habituellement. Malheureusement, ça peut toujours changer, ça,
une autre pétition.
Bon, comment ça va présentement dans la production de l'épisode 3, etc. Bon, il dit, bon, le casting est pas mal tout réalisé. C'est les mêmes acteurs qui reviennent pour la plupart. Ensuite, la production, bon, il y a des modèles qui sont créés.
I wanna be coffee boy number 3.
C'est ça. T'as les maquettes, etc., c'est commencé. Les designs, les arts concepts sont commencés. Rick McCallum est déjà en Australie, et puis, etc., etc. Il n'y en a pas dit vraiment plus. Tout va bien pour l'instant.
Tout est bien ciblé comme que ça devrait l'être.
Exactement. Ensuite, le personnage... Bon, le Star Wars Insider a mentionné, il y a très peu de temps, Rick McCallum a mentionné qu'il y aurait un caméo d'un personnage de la trilogie classique dans l'épisode 3. Puis on lui a demandé, est-ce qu'on peut avoir un indice? Un petit indice? Puis il a dit non.
Non. Ça a été sa réponse.
Puis là, j'ai dit que j'allais arrêter avant que sa tête explose.
Oui.
Bon, ensuite, on lui a demandé tu es un grand fan de science-fiction fantastique. Est-ce que tu as des films préférés, des livres, des séries télé? Il a dit bon, les films Lord of the Rings.
Les livres, là, surtout. Là.
Livre, il n'a rien répondu, mais plus tôt dans l'entrevue, il avait mentionné Asimov, etc. Donc, j'imagine que...
Les grands classiques, exactement.
TV show, il a dit ça fait plusieurs années qu'il regarde pratiquement plus de la télévision parce qu'il n'a pas le temps. Il revient chez lui à 19h, et puis il regarde ses 70 emails, puis il va sur eBay pour voir les items de collection qu'il pourrait s'acheter, puis il va dire, quelle belle vie. Ensuite, quel film qui était qui avait le plus hâte de voir cette année? Et c'était Le Retour du Roi, de Le Seigneur des Anneaux, le dernier épisode. J'ai demandé, et La Matrice, ça t'intéresse un peu? Il dit non, ça ne m'avait pas accroché. La Matrice, c'est pas son style vraiment.
It's not Lucasfilm or ILM related. I don't care.
Ensuite... est-ce qu'il suit ou pratique un sport en particulier? Puis il dit pas pour l'instant.
Non.
Peut-être pas depuis un petit bout aussi. Il n'a pas vraiment le temps. Il voit son horaire.
Il suit les pod races.
Il court entre ranch numéro 1 et ranch numéro 2.
C'est ça. Ils vont mettre un turbo lift.
Ensuite, c'était des questions du chat.
Il y avait des questions du chat. Il y avait Jeremiah qui voulait savoir s'il y avait des informations sur Indiana Jones 4. Alors, lui, de répondre, des informations que je peux partager, tu veux dire? On lui a dit, ben oui, bien sûr. Puis il dit que présentement, tout va bien. Ils attendent encore le script final du film. Puis que si le script est accepté, ben tout va bien aller. Alors, on avait un Indien aussi avec nous.
De l'Inde?
De l'Inde, là, on s'entend. Mon Dieu. Pas du nord du Québec. Qui nous a demandé, qui nous a rejoint sur le chat, qui nous a posé plusieurs questions. Il demandait à Steve... quelle serait sa couleur de lightsaber préférée? Que Steve pensait...
Sa première réponse était couleur black light. Là.
C'est ça.
Tu sais, pour dévoiler tous les monstres habillés en blanc ou
quelque chose comme
dans le noir.
C'est ça. Puis l'autre qu'il y a eu finalement, c'est gold.
Ouais, la vraie couleur, c'est or, doré.
Une couleur dorée. Quelle est sa voyons, sa réplique favorite? Des films originaux, de la trilogie originale et puis de l'Attack of the Clones. Alors, c'est là qu'on découvre que Steve est un grand fan de Yoda, qui nous l'a d'ailleurs passé confirmé au téléphone.
Oui, c'est ça. Pour ses petits implants, il y avait un petit jouet Yoda, puis il y avait une réplique. C'est probablement ça. Le Furby de Yoda, là.
Je sais pas. Bref. il nous a dit, pour la trilogie originale, c'est « Do or do not, there is no try ».
En français, c'est... fait ou le fait pas, je sais pas,
ça existe la trilogie en français.
Enfin, ça fait 15 ans, je l'ai pas écouté en français.
Attends,
fait ou ne fait pas, il n'y a pas d'essai, ou ça doit être quelque chose
quelque
du genre.
Chose comme ça. Et puis l'autre, c'est pour Attack of the Clones, c'est Begun This Clone Wars. La guerre des clones vient de commencer. Je sais pas c'est quoi en français.
La guerre des clones est déclarée probablement.
J'ai pas été le voir en français.
Moi non plus,
je le regrette pas.
Je pense que je l'ai pas regardé sur DVD encore en français. Ok, ensuite, continue.
Quel est son thème préféré de tous les soundtracks? C'est le thème de Luke.
Le thème de Luke, la foule. Ben, la chanson, en fait, je vais vous le trouver rapidement. Là, ça va être...
Trouve-moi ça. C'est Luke's theme, normalement.
Mais je pense que c'est dans le Princess Leia's theme, un peu dans le milieu.
Ouais, tu l'avais.
Non, je suis pas sûr. Ah non, c'est Princess Appear.
Excusez, on essaie de trouver l'extrait audio. Ah, c'est ça. Ouais, arrête là.
Évidemment, c'était le thème où est-ce que Luke sort de la maison des Lars et va sur sa petite colline et regarde le coucher de soleil double.
Le Tatooine et Tatooine 2.
Exactement.
On parle de nom de soleil. Quel soleil en tant que tel. Bref. on lui a demandé quelle était la robe préférée d'Amidala dans Attack of the Clones. Là, il a demandé quelle robe. Ben, il dit qu'il y en a deux, en fait. Il y a la robe de mariage, qu'on n'a pas vu énormément de détails.
Mais qui était présente à la célébration 2, comme tu as dit. Tu as dû pouvoir la voir comme fou.
C'est ça. Alors, les détails sur cette robe-là sont incroyables. D'ailleurs, il y a des photos qui ont été prises par Linda. Et ils vont être montrés le 27 avril là, au meeting de Mansa. C'est ça. Fait que lui, il a la robe de mariage et là, bien sûr, la robe en cuir de Nathalie.
Designée par George. Plus particulièrement.
Oh, evil George. on lui a demandé quel était le moment le plus puissant, selon lui, dans Attack of the Clones. Et il a répondu, c'est Yoda qui rentre dans la salle avec sa canne.
Un petit vieux,
puis qui tourne le petit vieux à Mega Jedi Master.
Un grand maître Jedi.
Ça, c'était... J'avoue que... Sniff. J'en passe encore des larmes. Il y a Django Doo qui demandait à Steve quand est-ce que le databank de Star Wars épisode 3 sera ouvert sur StarWars.com. Steve de répondre, stay tuned, c'est restez
rester à l'écoute. Ouais.
Moi, j'essaie de le figurer sur un site web. Mm-hmm.
C'est ça. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai l'impression de la manière qu'il parlait, c'est qu'il va avoir un nouveau look complètement pour l'épisode 3. Donc, probablement que le nouveau look va sortir, il va avoir beaucoup de nouveautés, des choses plus interactives peut-être, etc. Ouais.
Parce que là, c'est encore les mêmes images qui ont été utilisées même pour la publicité durant les tournois de football en Europe. Là.
Mm-hmm.
C'est dommage qu'on voit juste les images puis pas les captions. Ceux qui ont la chance de voir ça, là, je vous le conseille, ça vaut vraiment un coup d'œil. C'est vraiment drôle. Arcos qui voulait savoir...
Les Weekends Star Wars.
Les Weekends Star Wars, entre autres, oui, c'est ça. Il a dit que si ça continuait à aller aussi bien que ça, comme que ça va présentement en Floride,
ils vont considérer faire des expansions internationaux.
Jeremiah, est-ce que Lucas aimerait faire une série un peu comme Stargate SG-1?
C'était dans les séries télé, dans le fond. Il a dit ça. Si les fans en veulent, on va en faire, dans le fond.
Lui, c'est ça. Puis il dit que George en a un petit peu parlé, là, de faire des séries télé comme ça.
Mais il y avait des projets personnels aussi, là.
Ouais.
Donc, tout dépendait de
l'épisode
lui.
L'épisode 3.
C'est ça, tout dépendait de lui.
Kit Fisto qui nous a demandé est-ce que lui va aller à ciné quand ils vont commencer à filmer. Oui, il va être là pour quelques jours, évidemment. Ils font venir tous les gens du Lucasfilm Magazine, de tous les fan clubs officiels autour du monde. Donc, c'est sa job d'être là.
Pendant quelques jours, ils prennent des photos pour les magazines, justement. Pour les
pour
différents magazines. Exactement.
Et voilà.
Et c'était tout.
Et c'était tout.
Puis on lui a demandé à la fin s'il y avait quelque chose que Lucasfilm voulait promouvoir, évidemment, StarWars.com, qui était le seul et unique site Star Wars. Et puis il a mentionné de rester à l'écoute, à l'antenne, à l'internet, je sais pas comment le dire, là,
pour
que ça soit l'internet, pour surveiller qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et puis il a parlé de Comic Con qui était à San Diego, qui s'en vient, que lui va être là personnellement pour un panel, comment qu'on dit, une conférence.
Une conférence.
Il a pas dit c'était sur quoi par contre, mais il a dit qu'elle allait avoir aussi le concours de films, de fan films, qu'elle allait avoir aussi avec les eux autres, ils donnent des prix avec les fan films qui ont été soumis. Donc il va avoir ça aussi, il va avoir des différents auteurs, il va avoir toutes sortes d'invités spéciaux. Puis il a dit que ça va être de plus en plus gros, l'implication Star Wars est de plus en plus grande. Et puis il y a toujours les vendredis Star Wars, comme il mentionnait toujours. Donc allez-y, moi j'irai avoir l'argent, mais.
Ben c'est ça justement là, que je regarde. Donne-moi un petit 2 secondes.
Comment ça coûte?
Ouais, c'est ça. C'est ça. J'en ai aucune idée. Je vais essayer de
San Diego Comic Con.
Ouais, non, c'est ça. J'essaie de trouver les rates présentement, les prix. Official Star Wars Fan Films Award, blablabla. Bla, bla. On veut savoir comment ça coûte.
Bon, ça doit être entre 25 et 50, là, probablement.
US.
Oh, bien sûr. Bien sûr.
On tient à mettre le doigt sur le US.
US.
J'arrive pas à trouver l'information. On la mettra peut-être sur le site pour ceux qui sont intéressés à aller faire un tour à la San Diego Comic Con. Mais c'est peut-être plus quelque chose dans les 30$. C'est entre 30 et 50$ US probablement là, pour la fin de semaine.
C'est ça. Puis il parlait des différentes conventions, là, peut-être Gen Con, etc., qu'eux s'impliquent de plus en plus.
Mm.
Et puis Lucasfilm va s'impliquer de plus en plus envers les fans. Donc c'est une bonne chose.
Tout à fait. Et voilà. Alors.
C'était
tout pour Steve, oui.
Exactement. C'était bien plaisant. Puis je suis surpris qu'on se soit souvenu aussi bien de toutes les.
On a pris des notes cette fois-là.
Moi, j'ai pas pris de notes.
Moi, je l'ai pris. On apprend de nos erreurs, Dan.
Exactement.
Mais toi, je pense qu'il t'entendrait taper avec le.
Hmm?
De la façon que le setup est fait, t'entendrais taper.
Ouais, ben on t'entendait taper dans les écouteurs.
Ça doit aussi.
Oui.
Il y a ça tape pas, ça.
Surtout ça.
Non, les coups de poing.
Désolé, vous avez pas l'image, là.
Ben, ce qui se passe, c'est que j'ai un petit laptop présentement duquel je chatte. On va dire bonjour à tout le monde, d'ailleurs. Et puis, la partie drôle, c'est que j'ai de la misère avec mon clavier de ce temps-ci. Le G et le H ne fonctionnent plus ou moins bien. Fait que, de temps en temps, je donne un coup de poing dessus pour essayer de faire fonctionner le G et le H. Et voilà. Ben pendant qu'on était en train de parler des conventions comme la San Diego Comic Con, je vais plugger deux autres conventions. Il y en a une qui s'en vient cet été du 11 au 13 juillet à Toronto, qui s'appelle Toronto Trek. Mais faut pas se fier au nom. On a beaucoup de fun en tant que fans de Star Wars, nous autres même là-bas, puis les fans de science-fiction surtout. Là. Pour les fans de Star Wars, moi je fais. Je vais donner trois conférences officielles, probablement en plus. Là. J'en donne trois qui est le futur de Star Wars, alors qu'est-ce qui se passe après l'épisode 3, après 2005. Les romans et les films, où est le lien entre les deux. Y a-t-il une boucle à faire?
C'est ça, si tu fais ça. À concept, il faudra que je t'aide là-dessus. Là.
Écoute, si tu veux. Puis il y a le Star Wars épisode 3 update, qui est les dernières nouvelles sur l'épisode 3, là, qu'il va falloir que je me tienne au courant jusqu'au mois de juillet. Et puis après, au mois de novembre, J'ai tout sauvegardé ça, puis là, je viens de fermer mon... niaiseux. Je sais pas pourquoi. Ta minute, Steve Sansweet Interview, voilà. Concept 2003, le 8 novembre, samedi 8 novembre à Montréal. Ça a lieu dans le centre-ville. Alors, l'invité d'honneur, c'est Michael Sheard. Qui est Michael Sheard? Nul autre que l'amiral Ozell. C'est
celui qui approche la flotte trop proche de Hot. Exact. Hot.
Fait que c'est celui qui précède à l'amiral Piet. Et puis, il a fait plusieurs choses. Il n'a pas juste fait du Star Wars, mais il va être là, entre autres, pour Star Wars. Et c'est là vont vous donner des détails, mais il y a peut-être des chances qu'il y ait quelque chose de spécial qui se passe avec lui. Des grosses chances. Fait qu'on va voir à vous donner plus de détails pour ça. Puis il y aura peut-être aussi, justement, comme Danny disait, là, vu qu'il a l'air de vouloir faire...
Ça va dépendre de mon horaire de travail, bien sûr.
Vu qu'il a l'air de vouloir faire la petite conférence là, sur les romans. Là.
Bon, on va voir si on peut assez développer... Star Wars en direct encore, etc. Techniquement, etc. On va peut-être le faire une émission de la convention ou une ou deux émissions, là, vu que c'est sur deux jours.
C'est sur une journée concept que Toronto Track est toute la fin de semaine. Okay. Et voilà.
Donc, ça conclut pas mal. On va parler un peu du concert Star Wars encore, faire des petites promotions rapides.
Concert Star Wars. À la salle Pollack de l'Université McGill, organisé par l'OVFM,
l'Orchestre avant de musique de film.
C'est ça, l'Orchestre avant de musique de film, et des personnes très gentilles.
Mm-hmm. Et puis...
très talentueuses.
Exactement. Probablement, ça c'est peut-être conclu, mais on n'est pas certain encore que Legend va vendre des billets, Legend Action Figure sur Saint-Hubert.
Il y a des gros
choses. Jean Talon, donc... on devrait vous annoncer ça sous peu. Donc, tous les fans qui partent chez Legend, vous allez pouvoir probablement vous procurer des billets là qui sont à 10$ étudiants et puis 15$ adultes avant l'avance. Ça, c'est le prix à la porte, mais si on les achète d'avance.
Non, c'est ça. Je pense que c'est 10$ étudiants, 12$
exactement. Étudiants. Puis en fait, le concert, c'est 2 heures de concert avec les thèmes... de la trilogie classique uniquement sur Star Wars. Donc 2 heures de Star Wars en concert avec un orchestre.
Je sais pas si Nami a encore... cette semaine, d'ailleurs, on avait mis les pièces de musique à télécharger, qui étaient une pièce de Final Fantasy.
Je me souviens pas quelle version encore. C'était la 7, tu disais?
Semble c'est le 7. Bien que c'est le 7. C'est pas le 7, c'est le 9. C'est un des deux.
Okay. Et puis, il y avait la pièce du film de Steven Spielberg, Hook, inspiré de Peter Pan.
Captain Crochet.
Ouais, exactement. Qui avait repris aussi. Et c'était une chanson de John Williams. Donc, fouillez un peu dans les actualités de cette clan. Vous allez les trouver. Vous pouvez les télécharger. Puis, ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en direct. L'orchestre, il était différent à cette époque de qu'est-ce qui est présentement, donc on peut pas vraiment comparer, là. Il va avoir beaucoup de similitudes, ils sont quand même assez professionnels, mais il faut dire que c'est tous des étudiants, des semi-professionnels, etc., des amateurs qui jouent dans cet orchestre-là. Il n'y a aucun professionnel, mais ils font une très bonne qualité pour...
Selon moi, c'est une qualité professionnelle.
C'est ça. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas qui font de l'argent avec ça? Comme non, carrière présent.
Il y en avait qui étaient présents lors du dernier concert du mois de mars 99, je pense.
2000.
Mars 2000, qu'on avait été. Il y avait eu 5 interprétations, justement. Puis, de ce que je me souviens de ce concert-là, puis de ce que je me souviens du concert de...
La célébration.
De la célébration, là, c'est aussi prenant.
C'est la même affaire.
C'est ça.
Et puis... cette semaine ou la semaine prochaine, j'ai reçu quelques thèmes classiques. Je vais essayer de sortir. Ils nous ont juste dévoilé quelques thèmes qui vont jouer, mais je pense que c'est les mêmes thèmes qu'ils avaient joué au concert qu'on avait été voir il y a 2 ans. Il y en a beaucoup qui dévoilent pas encore, puis sont encore en pratique. Donc ils veulent pas nous mentionner évidemment tous les thèmes qui vont jouer, bien sûr. Je cherche. OK. Évidemment, les pièces Star Wars qui classiques qu'ils ont, ils ont le titre principal, le main theme, évidemment. Main title, t'as le Princess Leia's theme, The Imperial March, The Battle of Hoth. Je crois que c'est Battle in the Snow, le vrai thème, le vrai nom du thème. Il faudrait que je vois.
Je pourrais pas garantir.
Mais c'est un arrangement. Donc, Battle of Hoth va avoir plusieurs... musiques arrangées ensemble pour ça va être un mouvement avec les musiques qu'on entend sur la planète Hoth. Et puis t'as le thème de Yoda, bien sûr, qui est les cinq qui nous ont dévoilés jusqu'à présent, mais ils n'ont pour 2 heures. Ils ont 2 heures de concert de prévu.
Là, t'en as pour quoi, 15 minutes?
Ouais, à peu près. Là. Battle of Hoth risque d'être un petit peu plus long.
Ben, t'en as pour à peu près 1 heure, là, je dirais.
Exactement. Donc, prévoyez la longueur d'un petit peu plus long qu'un CD de musique que vous écoutez. Non, la longueur d'un CD de musique. Non, 76, 2 heures, 120 minutes. Non, un petit peu plus long qu'un CD de musique. En plus de ça, ils ont un CD qui va sortir bientôt. Je pense qu'il est sorti cette semaine. Un CD de musique avec leurs anciennes pièces.
Ah.
Qu'on pourra acheter probablement que sur place au concert, vous allez pouvoir les acheter. Mais c'est des pièces d'anciens concerts qu'on fait. Donc, celle de Final Fantasy risque d'être là-dessus. Hook risque aussi d'être là-dessus, etc. D'autres chansons qu'ils ont interprétées. Et puis, on va aussi sur cette clan vous montrer l'affiche officielle du concert qui doit être terminé présentement. Et puis, allez sur cette clan, si vous voulez beaucoup de détails, allez sur cette clan, dans la colonne de gauche, la grande bannière de l'orchestre. Cliquez là-dessus, vous allez avoir les informations et l'adresse courriel pour communiquer avec le gérant des musiciens pour obtenir des billets pour le spectacle d'avance parce qu'ils sont moins chers. Et puis aussi surtout qui habiterait à l'extérieur de Montréal, qui voudrait appeler, envoyer l'argent et puis qui reçoivent le billet par la poste.
Réserver
leur billet parce que seulement 600 places, donc ça risque de sortir assez rapidement. Et voilà, c'est à peu près tout. On n'a rien d'autre à rajouter pour l'émission, je crois. On n'a pas prévu d'autres émissions, ça risque d'être dans 2 semaines. On va voir sur quoi qu'on n'a pas trouvé de sujet encore. On est toujours de dernière minute, disons.
Mais non, on va trouver quelque chose, ça devrait être mis cette semaine.
Exactement. On est en train de chercher le sujet. Non,
je fixe la bibliothèque alignatique pour trouver
c'est
le
ça.
Sujet.
Non, on va sûrement parler un peu du E3. Je crois que tu as reçu un email là-dessus aussi. De la LQJR.
Oui.
Donc, on va peut-être parler un peu de... On va faire peut-être une entrevue avec eux autres, leur aventure qu'ils vont faire au E3. Et puis, on va vous parler un peu de qu'est-ce qu'on va faire avec eux par rapport à ça. Et puis, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait parler?
On pourrait interviewer Rick McCollum, là, c'est sûr, mais...
Pas tout de suite.
Je sais pas.
Il est trop occupé présentement, non?
Non, mais je me disais, tu sais,
non,
peut-être
y a aussi,
pas pour l'instant.
Aussi, une émission qu'on aimerait faire, c'est le côté féminin de Star Wars. Donc, toutes les role models féminins, comment tu dis ça en français?
Les modèles. Les idoles.
Les idoles féminins. Qu'est-ce que représentent Léa et Padmé pour les jeunes filles, etc.
Mon Mothma.
Exactement. Les personnages dans l'univers étendu aussi est féminin. Avoir des commentaires de filles et de femmes de Star Wars. On va essayer d'en avoir en studio aussi, qui vont pouvoir nous donner leurs commentaires pour avoir ça plus live un peu, etc. Donc,
trois générations de fans de Star Wars
féminins. Donc, on va pouvoir voir peut-être leur idée. Donc, si vous avez d'autres idées aussi d'émissions, ben envoyez-nous-les au swendirect@hotmail.com et on va sûrement les tenir compte de vos suggestions. On a plusieurs émissions à venir, dont d'autres entrevues qui sont pas officialisées encore, donc on verra.
On vous fait la surprise.
Surveillez cette clan. On a tellement de choses à faire que des fois on oublie de penser à certaines autres choses.
Et oui.
Donc on va vous laisser là-dessus. On était bien content que vous nous écoutiez. La reprise devrait être mise probablement demain. La reprise de l'entrevue uniquement pour une semaine. Et puis l'autre semaine, ça va être l'entrevue complète avec la partie française. Et puis, d'autres choses à dire, moi?
Non, je pense que c'est bien correct. Ben, le 27 avril, qui est vers la fin de ce, mois, de ce mois-ci, on va faire un diaporama sur la Star Wars Celebration qui a eu lieu l'an dernier. C'est une récapitulation de tout ce qui s'est passé là, des souvenirs, des photos. Ça va être super trippant. C'est organisé par MONSFA, l'Association montréalaise de science-fiction et de fantastique. Et on va donner plus de détails sur ce plan par rapport à ça.
Et voilà. Donc, que la force soit avec vous. Et puis, revenez-nous surveiller Citlan pour la prochaine émission.
You are listening to Radio Citlan. Star Wars Internet Radio. Brought to you live by Citlan.net.
Oh, tu fais ton petit anglophone. Salut tout le monde.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez citlan.net pour connaître la date de la prochaine émission.
remember, the Force will be with you. Always.
www.sidclaw.net